Bonjour à tous. Quelqu'un disait dans le chat à l'instant qu'il y avait un petit air de Muse sur ce titre. Ça n'est pas du Muse, mais ça n'est pas faux. J'espère que vous allez bien. Tout mon corps a envie de dire lundi. En ce lundi, on est d'accord qu'il y a une vibe de lundi. Hein, 12 novembre 2025, tu regardes sur l'agenda, c'est pas lundi, c'est mercredi. Et pourtant, il y a un air de lundi, on est d'accord. Ce matin, j'étais pas très réveillé, je dis à mon épouse que j'ai croisé. C'était bien ce week-end. C'était un petit côté Radiohead. Peut-être Muse. Hein ? Et oui, avec le pont. Alors pourtant, j'ai pas fait le pont, on a travaillé hier, on a fait deux jolis streams. Une revue de presse hier et un joli stream le soir sur ce jeu de fou que j'adore, Dispatch. On fera la fin jeudi soir. Ce soir, il y a autre chose. Et malgré tout, je sais pas, il y avait petite vibe de week-end. Vibe de week-end. Alors pour ceux du coup qui ont fait le petit pont là, vraie vibe de week-end quoi. Tu connais la boutique Obad, me dit Kouchim. J'ai un Samuel Etienne qui est marchand sur notre outil. Alors il y a certains mots qui font ok. Alors Obad, je crois que c'est une marque de lingerie. Donc je crois comprendre que dans l'univers Obad, il y a un Samuel Etienne. Je ne veux pas taper Samuel Etienne Obad sur Google Images, je ne sais pas ce qui va sortir. Mais il est marchand sur notre outil. Alors je pense que outils, il y a une faute de frappe. Le marchand sur l'outil. Ah. Comment ça, vendeur de tanga? Voilà. Donc je salue ce Samuel Etienne, je ne sais pas ce qu'il fait exactement, mais bravo à lui. Comment ça, Samuel Etienne en petite culotte? Hein? Quoi? Hein? Je me suis endormi hier devant Dispatch, me dit Old Linux. Il est allé jusqu'au dernier épisode diffusable. Oh, c'est trop mignon. J'arrive, Sama Els. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu à épisodes. Les deux derniers épisodes sortent aujourd'hui. Et donc, on a fait hier jusqu'au sixième épisode, je crois. Et il en reste deux. Et après, on va être frustré parce qu'il faudra attendre un nouvel opus du jeu. Un nouvel opus du jeu parce que. Et vu le taf que ça a dû demander, ce jeu de fou. Donc voilà. Et on fait ça jeudi soir, parce que ce soir, il y a autre chose. Ce soir, il y a ça. Voilà. Ça va être une dinguerie, le 7 et le 8. Il y a quoi, le 7 et le 8? Ah, je regardais le 7 et le 8 décembre. Non, ok, les épisodes, ok. Pardon, j'ai vu 1000 questions sympas dans le chat, je vais essayer d'y répondre avant de démarrer. Et je vous lâche, alors je commence très tôt ce matin, je vous lâche à 11h30 parce que j'emmène l'un de mes enfants chez le médecin, petite visite de routine. Voilà, et après je me mets sur Time Out justement, mon beau jeu de ce soir. Voilà. Oui, Obad et la lingerie, oui, on voudrait en savoir plus sur Samuel Etienne qui travaille chez Obad. Est-ce qu'il est... Merci Marmotte pour le troisième mois. Merci Noémino pour le soutien pour le Prime. Que fait ce Samuel Etienne chez Obad? Est-ce qu'il est modèle? Est-ce qu'il est top modèle? Est-ce qu'il est mannequin défilé? Est-ce qu'il est mannequin cabine? Mannequin corps? Je ne sais pas. Est-ce qu'on voit sa tête? J'ai plein de questions qui. Ad Hoc Studio, le studio de Dispatch, a dit qu'il commencer à envisager une saison 2. J'espère que le jeu a eu du succès parce que ça il le mérite. Les acteurs vocaux ont dit qu'ils voulaient en faire une aussi. Ok. Alors, je remonte dans le chat parce que j'ai vu des questions sympas. Hello, ce serait super que tu fasses des vidéos sur tes triathlons ou ta prépa triathlon. Ah non, mais non. Salut, Eddie Dianco. Non, mais ça, c'était avant. Dans ma vie d'avant, avant que je découvre Twitch, je faisais énormément de sport parce que j'avais du temps pour moi. Puis j'avais pas encore les enfants, tout ça. Et donc j'ai fait un peu de sport, et notamment un peu de course à pied, un peu de triathlon. Mais là, je fais plus là. Enfin, je fais du sport d'entretien, mais je fais plus de. Donc, après, un gros défi sportif un jour. Souvent, je me dis, idéalement, il faudrait un influenceur richissime. Tu vois, qui me fasse un truc d'ego, genre un influenceur richissime, beaucoup plus jeune que moi, qui du haut de sa jeunesse, de son ego et de son assurance, me lance un défi, genre allez on fait un marathon et le premier qui gagne, l'autre lui donne 1 million d'euros. Voilà, tu vois. Là je veux bien reprendre l'entraînement quoi. Mais vraiment avec un gros comment dire un gros un gros nerf lié à l'âge. Genre, un mec de 25 ans qui me défie, quoi. Tu vois. Tiens, Squeezie, très bien, Squeezie, il a les sous. Squeezie, si le gars est assez fou pour mettre 1 million sur un marathon avec moi, là, je reprends la course à pied, ouais. Puis je le marave. Mais si tu perds, tu vas lui devoir 1 million. Ouais, mais je peux pas perdre un marathon, en fait. Parce qu'en fait, le problème, c'est que pour arriver au niveau qu'il faudrait pour gagner ce truc, il faut un entraînement et un passif. Même avec un entraînement hyper chargé de quelques mois, en fait, ce serait trop juste, quoi. Voilà, donc si quelqu'un a 1 million à perdre, je fais. Tu veux 1 million, quoi. Voilà, exactement. Oui, pour résumer. C'est ça, c'est ça. PA pour être fumé au marathon en vrai. PA, j'ai couru avec lui, il est plus en forme que moi, PA. Hein? Il est plus en forme que moi. PA, il a fait un 3h24? Alors, PA, ouais. PA, je pense que sur le papier, il est compliqué à prendre. Parce que. Alors, je suis plus rapide que lui sur marathon. Mais moi, mon record de marathon, il date de 2013, quoi. Non, 2003. 2003. Et le record de PA, il date d'il y a quelques mois. Donc, je suis plus rapide que lui. On est en quelle année, là? Mais il y a 20 ans. Mais. Il y a 20 ans de différence, quoi. Non, PA, non, PA. PA, non. PA, non. PA, non. PA, je pense que j'aurais du mal à rattraper mon retard sur lui. Ouais. Squeezie, c'est bien Squeezie. Squeezie, il n'a pas un record sur marathon en 3h24. Hein. Pardon, je remonte dans le chat. Donc, prépa triathlon, non. Mais j'avais une autre question avant dans le chat Twitch. Je remonte un petit peu. Salut, c'est Sama, je t'ai vu tout à l'heure, je t'ai pas oublié. Désolé, petite question, je suis nouveau, enfin je viens de TikTok. Merci Gaspacho, merci Marmotte. Je suis nouveau sur Twitch dans ton public, je me pose une petite question. Est-ce que tu as jamais pensé à animer des débats en live? Je sais que c'est compliqué et clivant, mais ça peut être très intéressant vu ton sens de la mesure et de la nuance. Des débats en live, tu veux dire des débats, mais genre politiques? On a un peu. Ouais. On a un peu fait des trucs là, comme ça il y a 5 ans sur cette chaîne. Pff. En matière de politique, ici, on a plutôt décidé de prendre le pouvoir, d'être élu en 2027, pour l'exclamation 2027 dans le chat, Twitch, que de faire des débats. Alors, ça m'a dit pas obligatoirement politique, ça peut être social. Après, oui, la sociologie est obligatoirement un peu politique, ouais, je suis d'accord avec toi, donc je comprends la difficulté du sujet. Ouais, J'avoue, j'ai reçu des hommes et des femmes politiques sur cette chaîne. J'ai fait des débats d'actualité hebdomadaires avec 4 invités toutes les semaines pendant un bon moment. Ça s'appelait l'hebdo Étienne. J'avoue que l'exercice était super intéressant. Mais après, sur une plateforme Twitch qui est très exposée aux réseaux sociaux, avec, bon, c'est comme ça, c'est le jeu des gens qui cherchent à t'attraper ta veste non-stop sur tout et n'importe quoi, en allant chercher les 30 secondes dans un débat de 4 heures avec des gens qu'on n'a pas préparé, qui sont pas forcément spécialistes du sujet, moi non plus d'ailleurs, en live sur Twitch, et qui vont mettre ça en avant sur les réseaux sociaux en disant « Ah oui, mais il a pas dit ça, il a oublié de dire ça !» Flemme, en lettres capitales, F-L-E-2-M-E, quoi. Donc j'ai arrêté. Le problème, c'est ça, c'est le fait que, forcément, c'est une bonne chose d'ailleurs, Twitch est hyper connecté aux réseaux sociaux, je pense à X et autres, et en fait, ça part en polémique non-stop, quoi. Donc, j'ai préféré me spécialiser sur la revue de presse, voilà, où là, il y a la maîtrise de ce que je dis est beaucoup plus importante, puisque je lis des articles que j'ai lus en amont, que je trouve intéressants, voilà, je suis seul à maîtriser ma parole, j'ai pas à gérer la parole de 4 personnes, voilà. Et on est, il y a moins d'un pro, quoi. C'est un peu plus serré, quoi. Et du coup, d'ailleurs, ça se passe, parce que c'est comme 5 ans que je fais cette revue de presse, et pour le coup, il y a moins d'attrapage de veste, quoi. Ah, mais il a oublié de dire ça. Voilà. Donc, flemme. Mais en vrai, c'est dommage parce que c'était sympa à faire. « Je trouve ça plutôt différent. Avec deux personnes qui se combattent dans le fond avec Twitch et la communauté et toi en arbitre, je trouve ça extrêmement intéressant. Tout en plus dans le besoin actuel et tout le monde s'intéresse à la poétique. Eh ben, c'est une super idée, mais je laisse quelqu'un d'autre la faire. Hein? Voilà. Non, non, c'est trop de travail. Trop de travail pour un retour qui est parfois décevant, quoi. Oui, c'est vrai, ça me chie ça aussi. Ouais. Donc voilà. Bon, heureux de vous retrouver. Je vous quitte à 11h30 ce matin, donc on va arrêter de bavasser, monsieur Étienne. Hein, la pie. C'est fou, qu'est-ce que je suis bavard. Je vous rappelle que ce soir, c'est mon stream de la semaine. Je compte sur vous à 20h. Regardez ces beaux gosses. Je parle pas du vieux en haut, là, sur la photo. Je pense aux 6 invités de ce soir. Une team de garçons, une team de filles. 5e édition de Time Out. Mon grand jeu de culture générale et culture pop. Les questions sont magnifiques. Salut Camille. Hein? Je file le petit truc à Bordeaux. C'est quand? La petite vidéo, je sais pas encore. C'est juste après. C'est bientôt, dans quelques jours. Et les 6 invités, ils sont là. Donc une team garçon, une team fille. Vous avez chez les filles, excusez du peu, Bagheera, Tatiana et Enjoy Phoenix. Ouais. Donc on a une jolie équipe. Et une équipe de garçons qui est sympa aussi, avec Théo Babac, avec qui j'avais envie de faire un truc depuis très longtemps, Simon Puech, que je vois souvent, qui est un ami, et Raska, créateur de contenu, musique, rap, que j'ai jamais rencontré encore, je crois, ou alors vite fait, mais dont tout le monde me dit qu'il est super sympa. Donc ça va être une belle émission, avec plein de bonne humeur, avec de la connaissance, ça va être topissime. Je suis en répétition à partir de 15h30, 16h cet après-midi au studio. C'est la grosse prod. C'est la grosse prod. Ah, bon. Oui, double Simon, tu as raison, monsieur Biganon, puisque l'ami Raska s'appelle également Simon. Oh, bordelaise. Eh oui, c'est discount, oui. Monsieur Biganon, tu t'appelles Simon aussi? Voilà, donc ça c'est ce soir. Et ça va être sympa. Et puis accessoirement, vous avez aussi un joli Ça me plaît dimanche, mon émission du dimanche soir, où je reçois un invité qui me parle de son jeu préféré ou l'un de ses jeux préférés. Et nous avons Monsieur Camille Combal, l'animateur de télévision que j'aime beaucoup, qui vient dimanche dans Ça me plaît sur ma chaîne Twitch. Donc pour me présenter, comment s'appelle ce jeu? Je n'ai plus pas de mémoire. Splinter Cell. Intercell. Donc ça c'est dimanche, ok? Bon, alors maintenant on va bosser, hein. Pour tout, hop. Parce qu'il y a de l'actu, puis il y a de l'actu. On n'est pas sur l'actu légère ce matin, vous allez voir. On est sur l'actu de fond, hein. Et de l'Ukraine, et des retraites. Camille Combal partout dans les vidéos en ce moment. Il se fait un petit programme stream YouTube. Oui, j'ai vu qu'il avait fait un autre truc. C'est cool. Alors tu dis tout un programme. On m'a dit qu'il avait été dans un truc récemment. Mais que tu me dis les vidéos, tout un programme, donc j'ai dû rater des trucs. J'ai dû rater des trucs. Qu'est-ce qui fait mon ami Camille? Je crois que je l'ai vu dans une vidéo YouTube. Alors, Amixem, ouais, donc ça fait un. Effectivement, on m'a parlé de la vidéo Amixem, mais la personne disait des vidéos et tout un programme Twitch, YouTube, donc. Donc ouais, parce que là, du coup, en programme, ça fait un petit peu court. Amixem. Michou. Ah bah Michou, j'ai échangé avec lui il y a quelques secondes d'ailleurs. Ok. Donc Amixem Michou et... Remarque, ça fait deux, ça fait un pluriel déjà. Et... Non, parce que tout un programme, c'est... Et Samuel Etienne. Ok, d'accord. Bon, oui, c'est pas un programme présidentiel quand même, hein. C'est un petit programme. C'est un programme mou. Ok, c'est un programme mou. C'est un programme court. Voilà. Alors, mon programme tient en deux points. Voilà. Un SMIC à 10 000 euros et un SMIC à 10 000 euros. Ça fait ce genre de programme, quoi. Merci Alexia. Tu sais ce que je dis à chaque fois que je vois ton pseudo. Ce magnifique pseudo me fait penser à feu l'époque des boys bands. Alexiage. Alexiage. C'est magnifique. Merci pour le 40e mois. Merci Gaspacho. Bonjour, bonjour, comment ça va? C'est moi qui ai pensé à toi pour les places au concert d'Hugues. J'espère une prochaine fois peut-être. Hugues. Bonjour, bonjour, c'est moi qui ai pensé à toi pour les places au concert d'Hugues. Hugues. Peut-être une prochaine fois peut-être. Hugues. Hugues Aufray? J'ai pas la ref. Concert d'Hugues. C'est qui Hugues? Pourquoi tout le monde rigole? Là, encore une ref que j'ai ratée. Hugues. J'ai pas la ref. Désolé, je connais quelqu'un qui s'appelle Hugues qui donne des concerts? Vous êtes sûr que ce message était bien pour Samuel Etienne? Il y a d'autres vieux sur Twitch, hein. Non, parce que. On est plusieurs, hein. Non, parce que parfois, toi, t'arrives sur une chaîne Twitch, et puis tu vois un vieux streamer, tu dis, ah, c'est JDG. C'est le joueur du. Ah, c'est. Que je veux dire comme dinguerie encore. Oui, Hugues Aufray, normalement, tu as une invitation pour le Dôme? Ah non, non. Non, j'ai rien reçu, j'ai rien vu. Ah non, pas Hugo Décrypte, c'est un gamin. Donc bref, je suis pas tous les vieux de Twitch, quoi. Pépé Garcia, il est pas vieux, Pépé Garcia. Tu voulais y aller? Non, je peux pas. J'ai zéro temps, moi. N'oubliez pas que j'ai pas de vie sociale, moi. C'est quoi cette histoire? Non, c'est très sérieux en plus. Oui, mais moi, je ne sors jamais, moi. Hein. Moi, ma vie, elle est partagée entre ma famille, le stream et un peu de sport. Et du sommeil quand il reste du temps. Je ne vais jamais à des concerts, à des trucs, des dîners ou je sais pas quoi, les trucs là, que les gens font, non. Et le jeu vidéo. Ah oui, ça, c'est dans le stream. Et France Télé? Non. Ah non, France Télé, non. Ah bah non, moi non, France Télé. Non. Moi, ma vie, c'est ma famille, le stream, un peu de sport et du sommeil. Ah non, France Télé, non. Ah bah non! Ah bah non! Ah bah non! Ah non, France Télé, c'est maximum 2 semaines de travail par an pour moi. Depuis qu'ils ont passé question pour un champion le week-end. Donc je vais pas rentrer France Télévision dans ma vie. 2 semaines, un truc que tu fais 2 semaines par. Je sais pas, tu rencontres quelqu'un, tu résumes ta vie, tu lui parles pas de 2 semaines, quoi. Tu te dis, ah, puis l'été dernier, je suis allé en Auvergne pendant 2 semaines. Non, tu parles des trucs qui te prennent du temps, quoi. Ah non, bah, France Télévision, non. On peut pas dire que ça me prenne beaucoup de temps, quoi. Bon, Samuel, il faut bosser maintenant. Allez, je vous mets le sommaire, let's go. Ah, c'est du sérieux ce matin. C'est du sérieux ce matin. Tu travailles plus à France Info? Non, France Info, j'ai arrêté il y a 3 ans, 4 ans, je sais plus. Ouais. Je voulais plus streamer. Je voulais plus streamer. Ouais. C'était bien France Info, hein. C'était une super équipe. C'était génial en vrai. Voilà. Juin 2023? Ouais, peut-être bien, ouais. Ouais, ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi déjà. Allez, let's go! Ok. De quoi on parle ce matin? Je vous mets tout ce qu'il faut. La revue de presse, on a pour 2 heures, 2 heures et demie. Non, c'est pas ça. C'est ça, voilà. Alors, déjà, on va mettre une petite flèche. Oui, à l'époque, je faisais la matinale sur France Info. Je me levais à 2 heures. J'arrivais à 3 heures à France Info. 3 heures, 9 heures, je faisais France Info. Après, je prenais mes petites jambes. Je venais au studio. À 10 heures, je lançais une revue de presse. Jusqu'à 13 heures en général. L'après-midi, j'allais faire une mini-sieste ou pas. C'était ma vie d'avant. Ça c'était avant ça. Alors, bonjour, on passe au sommaire. Let's go. Mais j'ai bien aimé, hein, c'était sympa France Info. Hein. Alors, quelle heure il est là? TC 23 minutes. Hop. Let's go. Alors, 23 minutes, la petite flèche, c'est sommaire. Ok, hop, et là c'est le sommaire. Ok. Tac, et tac, et tac. Et maintenant, ce que je fais aussi, c'est que je vous mets même dans le titre. Voilà, comme ça. Ce qu'on fait, comme ça, c'est propre de partout. Hop, hop, hop. Et bien sûr sur TikTok, la petite flèche qui va bien, pour que sur TikTok aussi vous sachiez où nous en sommes. Voilà, c'est parti pour le sommaire. Sommaire, où pendant quelques minutes, je vais vous dire l'essentiel de l'actu, pour ceux qui n'ont pas forcément 2 heures à passer avec nous. Ok, de quoi on parle ce matin? Vous êtes prêts? Bienvenue, bande de belles personnes. Dans la matinée Étienne, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Ouais, sans faute, même quand t'as pas envie de te lever, eh ben je me lève. Et même quand t'as pas envie de m'écouter, t'es là aussi. Du lundi au vendredi, en général 9h midi, 10h, 13h. C'est sur Twitch en direct, c'est sur TikTok en direct depuis quelques semaines également. C'est en replay sur Twitch, sur YouTube. Et c'est en podcast audio, point d'exclamation podcast dans le chat Twitch. En podcast audio depuis quelques semaines également, depuis la rentrée. Sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast, etc. On parle de quoi ce mercredi matin? Notamment, beaucoup dans les journaux, de la suspension de la réforme des retraites. C'est fait. En tout cas, ça va être fait. Aujourd'hui, ce mercredi, article de Libération ici, je vous ai mis plein d'articles sur le sujet pour avoir différents regards, différentes sensibilités. Les journaux ne pensent pas tous la même chose. Une suspension qui en dit long, jeu de mots, Libération, qui est écrit malgré le scepticisme d'une bonne partie de la gauche, le décalage dans le temps de la réforme Borne sur les retraites devrait être adopté ce mercredi à l'Assemblée. Ce mercredi, c'est donc aujourd'hui. Un soulagement pour le Premier ministre, je parle de M. Sébastien Lecornu, puisqu'il donne au PS les gages nécessaires pour éviter à nouveau la censure de son gouvernement. Donc gros dossier dans Libé. Le Figaro n'a pas vraiment le même regard que Libération là-dessus. Le Figaro trouve que c'est une bêtise absolue de suspendre la réforme des retraites, notamment pour des raisons financières, budgétaires. Et voici, ça donne, Lecornu sacrifie les retraites et offre une victoire au PS. Impardonnable! Dit Gaëtan de Capelle. Hein, ils sont fâchés. Enfin, ils sont fâchés. J'allais dire, ils sont fâchés au Figaro, c'est pas vrai. Le Figaro, c'est des journalistes, des hommes et des femmes. Ils sont pas tous d'accord entre eux. L'éditorial n'est que l'expression de la pensée d'un journaliste du Figaro. Mais en tout cas, Gaëtan de Capelle trouve que c'est impardonnable. Voilà. Lecornu s'incline devant le PS. Voilà. Les finances publiques privées d'économies substantielles, nous dit le Figaro. On verra ça. Alors évidemment, on a le Figaro qui donne la parole sur quasiment une page au patron du MEDEF, le patron des patrons. Et il dit, c'est une bêtise. Voilà. Bon, vous ne serez pas très, très surpris. Les Échos, bah, ils sont un petit peu sur cette même ligne. C'est un journal libéral aussi. Ils ne trouvent pas ça foufou non plus. Mais ils sont un peu plus mesurés, vous le verrez. Et puis, comme j'essaye d'aller un peu plus loin sur que la colère du moment de part et d'autre sur les sujets, et dire, mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que, ok, certains veulent l'annulation, la suspension de cette réforme des retraites, d'autres disent que c'est une hérésie sur un plan budgétaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, y en a qui disent qu'il faut réformer totalement le système et faire une retraite à points. Vous vous rappelez de ce débat? C'est le président Macron, notamment, qui avait lancé ce débat sur la retraite à points, donc une autre organisation de la retraite, sauf que le truc avait été abandonné, était parvenu après la crise sanitaire, quoi. Donc là, il y a retour de ce débat. Qu'est-ce que ça vaut? C'est la Croix qui pose la question ce matin. Le retour de la retraite à points, est-ce une bonne idée ou pas? On en parlera. Voilà. On ne parlera pas que de ça. L'Ukraine, ça vient après, mais pas dans le désordre. On parlera de ça aussi. Moi, je trouvais ça intéressant. Côté un peu sensibilisation au sujet, on a une explosion en France du nombre de cancers du poumon chez les femmes. Voilà. Pourquoi? Parce que elles se sont mises à fumer plus tard que les hommes en France, hein, mais elles ont en quelque sorte rattrapé leur retard. Et aujourd'hui, là où le cancer du poumon longtemps a été un cancer masculin, eh bien aujourd'hui, il est aussi très féminin. Voilà. Ces chiffres qui font peur, donc je vous parlerai de ça. Alors il y a un décalage dans le temps, hein. Les cancers du poumon aujourd'hui, qui est essentiellement provoqué par le tabac, la cigarette, il est provoqué par une consommation qui a commencé il y a bien longtemps, quoi. Mais on verra les chiffres un petit peu pour vous sensibiliser là-dessus et vous rappeler que le tabac, c'est un peu de la merde pour votre santé quand même. Merci Yuganea pour le soutien. Voilà. On se penchera sur ça, je trouvais intéressant de vous en parler. Donc vous avez vu beaucoup de l'actu internationale aussi. Je vous parlais de l'Ukraine et du Mali. L'Ukraine, le conflit dure depuis super longtemps et on a Un dossier un peu inquiétant pour les Ukrainiens ce matin dans La Croix. En manque de soldats, c'est la une de La Croix. L'Ukraine s'essouffle. Face à la supériorité numérique de l'armée russe qui remet des soldats et encore, malgré les pertes humaines, les défenseurs ukrainiens ont de plus en plus de mal à tenir leur position, en particulier à Pokrovsk. En mal de recrues, l'armée ukrainienne craint la submersion. On lira ce dossier pour voir un petit peu où on en est de cette guerre en Ukraine qu'on aurait tendance à oublier, alors que cette guerre se poursuit. Et puis vous l'avez vu, j'ai aussi un dossier sur le Mali. Ce matin, le Mali au bord du gouffre. Qu'est-ce qui se passe au Mali ? Je vous avoue que je ne connais pas très bien le sujet. Voilà, donc j'ai trouvé un article d'une page dans le Parisien qui essaie de nous le raconter. Peut-être que certains dans le chat connaissent bien ce sujet et je compte sur vous aussi pour me dire ce que vous en pensez. Des djihadistes, principalement issus d'Al-Qaïda, contrôlent les trois quarts du territoire et coupent les routes d'approvisionnement vers Bamako. Les Français ont été encouragés vendredi à quitter le pays. Voilà, une page pour essayer de résumer ce qui se passe là-bas. Et puis, on finira, désolé, j'ai pas des choses très légères ce matin, je m'en veux un petit peu. Souvent, le mercredi, je vous mets du cinéma, les sorties ciné, tout ça. Et là, j'ai un truc sur les conséquences sur l'emploi de l'IA, de l'intelligence artificielle. Alors, c'est un truc que je lis très souvent. Très régulièrement, ah oui, c'est vrai, c'est toi, ça. Hop là, voilà. Très régulièrement, je vois des articles, dans différents journaux d'ailleurs, sur les conséquences négatives de l'IA sur l'emploi. En tout cas, sur certains emplois. Parce qu'on peut estimer que l'IA va aussi peut-être faire naître des emplois, certains qui n'existent pas encore, mais va peut-être en supprimer également. Et là, il y a un gros dossier dans l'Humanité ce matin sur l'IA cheval de Troie contre l'emploi. Hein. Merci Hélène Dio pour ton message. L'IA offre un prétexte à la suppression de centaines de milliers de postes et avec des jeunes diplômés qui sont les premiers touchés. Et ça, cette info-là, je la vois passer depuis des semaines dans plein de journaux, et pas seulement de gauche, là, l'Humanité c'est un journal de gauche. Et donc j'ai décidé de vous mettre ce dossier un petit peu en avant pour comprendre un petit peu quel est le sujet, notamment le fait que les jeunes diplômés, les jeunes sont particulièrement fragilisés par ça. Alors après, il faudra essayer de s'interroger ensemble sur est-ce que globalement l'IA va supprimer des emplois plus qu'il ne va en créer, par exemple. Je vois Elbirov qui dit il y a des études qui montrent que la balance entre création et destruction d'emplois est assez équilibrée, par exemple. Mais il est vrai aussi, comme le dit TTU, qu'aux États-Unis, toutes les grosses boîtes ont commencé à supprimer de grosses quantités d'emplois. Intel, AMD, Amazon, etc. Donc on se penchera dessus. Et c'est tout. Ouais, on est sur des choses un peu lourdes ce matin, pas très légères. Bon, c'est pas moi qui fais l'actu, mais j'ai pas trouvé les petits sujets un petit peu plus légers pour nous changer les idées. Ce sera pour demain. En tout cas, je vois plein de réactions sur l'IA. Salut Défécator. Personnes virées chez Amazon, 9000 personnes virées chez Microsoft. Tu vas pas jouer à Valorant ? Non, là, pas là, non. Je joue pas le matin. Déjà que ce jeu a corrompu mon âme et mon cœur et mon cerveau, ça joue un peu le soir, ici plutôt. Mais le matin, c'est l'actu. Mais merci en tout cas. TN. Ah, tu vois, ça fait 2 ans que je travaille dans la finance, j'ai été diplômé dans la finance, me dit Yonersa, et effectivement, on est inquiet. Ouais. Ok, bon, on y va ? Vous êtes prêts ? Allez, go, premier sujet. On est sur du 33 minutes. On est en speedrun ce matin, c'est très bien. Allez, 33 minutes. La réforme des retraites, a priori, suspendue aujourd'hui par l'Assemblée. Hop, 33 minutes. Ok, la petite flèche. Hop, hop. Et je vous change le titre également, comme ça il y a tout. C'est beau, sauf qu'il y a une petite lettre qui se promène. Voilà. Voilà, et TikTok, je vous mets la flèche aussi, comme ça vous savez où on en est. Merci Jerrycan, joli pseudo par ailleurs. Hop. Oh, Sarkozy sorti de prison, on en parlait déjà hier. Quelqu'un me demande, c'est très pertinent d'ailleurs. Mais il n'y a pas d'article sur Nicolas Sarkozy qui sort de prison? Si. Si. Mais il y en a même plusieurs ce matin. Sur dans le détail, dans quelle voiture il est monté, qu'est-ce qu'il a commencé à faire, dans quelle brasserie il est allé manger, ça ne m'intéresse pas. Nous, on a parlé du fond, de l'essentiel, c'est pourquoi il a été libéré. Comment, dans quelles conditions, liberté surveillée, il n'a pas le droit de rentrer en contact avec certaines personnes, etc. Les dossiers qui l'attendent, parce que ce n'est pas terminé, mais ça, on en a parlé demain, hier, pardon, tu l'as en replay. Let's go, les amis, c'est parti. Bienvenue dans la revue de presse de ce mercredi 12 novembre 2025. On commence par quoi? On commence par la suspension de la réforme des retraites qui va être votée aujourd'hui par l'Assemblée. Certains s'en félicitent, d'autres s'en inquiètent. C'est parti, on commence par Libération. Une suspension qui en dit long, jeu de mots, le deal, nous dit Libération, avec les infos essentielles ici. Malgré le scepticisme d'une bonne partie de la gauche, le décalage dans le temps de la réforme Borne devrait être adopté ce mercredi à l'Assemblée. Parce que pour l'instant, on ne parle que de décalage dans le temps de l'application de cette réforme Borne sur les retraites. Un soulagement pour le Premier ministre, donc nous parlons de Sébastien Lecornu, puisqu'il donne au Parti socialiste les gages nécessaires pour éviter à nouveau la censure du gouvernement. Édito. Édito, je rappelle, un éditorial, c'est un article où le ou la journaliste donne un peu son avis. Et aussi parfois résume les faits, ce qui est intéressant quand c'est bien fait, c'est plutôt bien fait en général dans l'IB. Édito de Lucie Alexandre, let's go. Ce n'est pas tous les jours que la gauche peut revendiquer une victoire à l'Assemblée. C'est vrai. Ce mercredi, aujourd'hui, donc, le Palais Bourbon, c'est l'Assemblée, devrait afficher sa mine des grandes occasions. Travée pleine de députés, forêt de caméras en salle des quatre colonnes, c'est la salle où les journalistes et les députés se rencontre, journaliste agglutiné en tribune, hein. Bon, on est mieux ici dans mon studio, car après la routine hebdomadaire de questions au gouvernement débutera à 15h l'examen de l'article 45 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui avance de 3 mois l'âge légal de départ à la retraite pour les générations 64-68 et prévoit l'augmentation prévue de la durée de cotisation pour les générations 64 à 65, pour être précis. Ce n'est pas rien. Donc, en gros, c'est la suspension de la réforme des retraites, en tout cas le décalage de son application dans le temps. Ce n'est pas rien, c'est concret pour les gens qui vont pouvoir partir un trimestre plus tôt, parce qu'en fait, c'est ça. Hein. Ou, autrement dit, qui ne vont pas avoir à partir un trimestre plus tard. Ils en sont parfois à marquer les jours d'une croix comme en prison pour compter ce qu'il reste à tenir, explique une députée socialiste. Sauf surprise, malgré l'opposition de les Républicains, donc les députés de droite, de la France insoumise. Ils ne votent pas les LFI? Les LFI, ils ne votent pas la suspension de la réforme des retraites? Donc on va voir pourquoi. Et de certains membres du bloc central, donc autour de Macron, la mesure devrait être adoptée grâce aux voix du PS, du Rassemblement national, de la plupart des élus MODEM et du groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Plusieurs communistes, écologistes, voire certains macronistes, eux, ont prévu de s'abstenir. La voie semble donc libre pour faire advenir cette suspension de la réforme des retraites. Merci Jox TV. D'autant que le gouvernement a fini par annoncer le dépôt d'un amendement pour permettre aux députés, comme le réclamaient les groupes de gauche, de débattre des carrières longues, jusqu'ici exclues de cette mesure rectificative. Je vous lis, hein. C'est pas une vraie abrogation. Ah non, mais personne ne parle d'abrogation. En fait, il n'a jamais été question d'abrogation. Si à un moment tu as pensé que cette Assemblée allait voter une abrogation, une suppression de la réforme des retraites, c'est que quelqu'un t'a menti, hein. C'est au mieux une suspension, mais en fait, c'est plutôt un décalage de l'application dans le temps. Oui, tu as raison, l'asticoteur, si LFI ne vote pas cette suspension, c'est parce que sans doute qu'eux veulent l'abrogation. En fait, il y en a quelques-uns qui, a priori, aujourd'hui, si on regarde ce qui va être voté aujourd'hui, certains, de quelques années de naissance vont voir la réforme ne pas s'appliquer à eux, quoi. Certains. L'adoption de cette suspension, vous voyez, Libération met des guillemets d'ailleurs, de la réforme Borne n'arracherait pas seulement le sourire aux socialistes. Sur le banc des ministres, de discrets soupirs de soulagement pourraient se faire entendre, car cette promesse n'est autre que l'offrande de départ de Sébastien Lecornu aux socialistes pour échapper à une motion de censure. Le deal, c'est les socialistes, je vous donne la suspension de la réforme des retraites et vous ne votez pas une motion de censure, vous me laissez au gouvernement. Voilà d'ailleurs pourquoi le gouvernement, explique Libé, a pris grand soin de remonter ce tout dernier article dans l'ordre de discussion. Hein, sinon, il y a un monde où il ne pouvait pas être voté. Je vous lis l'essentiel de l'article, je vous lis pas tout. Hein. Ah, je pense qu'on arrive sur LFI là. Je pense qu'on arrive sur LFI. Pour la gauche, cette bataille est pourtant marquée d'un paradoxe. Côte à côte dans les rues, il y a presque 3 ans, lors du mouvement contre la réforme des retraites, les députés élus en 2024, sous la bannière du Nouveau Front Populaire, sont désormais profondément déchirés. Donc là, on arrive à la division, notamment socialiste LFI. Certes, un clivage a toujours opposé les insoumis, partisans d'un retour à un départ à 60 ans, à l'option d'un statu quo à 62 ans préféré par les socialistes, mais tous ont signé le programme du NFP qui prévoyait l'abolition, et pas la suspension, de la réforme Borne. Accusant depuis des semaines les socialistes d'être des traîtres, de trahir la parole donnée aux électeurs, les troupes de Jean-Luc Mélenchon dénoncent un piège tendu par Matignon. Ça va concerner très peu de monde, ça n'abolit pas la réforme, ça la décale juste dans le temps, dit une députée LFI de Loire-Atlantique. Ça signifierait qu'on l'accepte alors qu'on n'est pas là pour négocier le poids des chaînes qui enchaînent. Comme elle, les députés insoumis assument de voter donc contre. Bon voilà, c'est vrai que j'avais oublié, mais maintenant je comprends pourquoi les insoumis ne votent pas pour ce texte. Et comme souvent depuis le début de cette séquence budgétaire inédite, communistes et écologistes, pour leur part, sont en plein dilemme et divisés à l'intérieur même de leurs groupes respectifs, tiraillés entre l'intransigeance des insoumis et le choix du PS de parvenir à un accord presque à tout prix. Okay. Il y a Jean du 65 qui dit « LFI juge le texte insuffisant et comme une arnaque ». Ouais, c'est ça. Exactement. Lucas Lucky et les filles expliquent que pour eux, cette suspension, c'est in fine avaliser la réforme des retraites pour 3 mois de sursis, donc un piège du gouvernement. Ok, c'est clair. Alors, vous verrez que de l'autre côté du spectre politique, à droite, on dit que c'est une dinguerie et que même la suspension, c'est une hérésie quoi, budgétaire et économique. Mais on va voir ça dans un instant. Là, on est plutôt à gauche. Ok, l'article est assez clair. Ok. Ben, justement, j'en parlais. Alors là, on a vu les sensibilités de gauche qui s'expriment, les socialistes qui sont contents de cette suspension, de ce report de l'application de la réforme des retraites. Et puis les filles qui disent « Vous êtes des guignols, on est en train de se faire rouler dans la farine, c'est pas ça qu'il faut, c'est l'abolition. » Mais je vois un message de Métori dans le chat qui est intéressant, qui dit « Je comprends pas, la suspension du jour n'empêche pas l'abolition ultérieure. » J'ai l'impression que l'envie de nuire au PS, nous dit Métori, est plus forte que la défense des travailleurs chez LFI. Ouh, le débat. Ouh, le débat. C'est intéressant. Ouais. Alors, le Figaro, ils sont sur autre chose. Le Figaro, ce matin, ils sont sur... non, mais vous n'avez rien compris. Les gauchos. Hein, c'est une hérésie. C'est impardonnable, ce qui est en train de se passer. Voilà. Et le Figaro qui estime que Lecornu sacrifie les retraites et la question de la dette en France, et offre une victoire au PS. Les députés doivent se prononcer donc aujourd'hui dans l'hémicycle sur l'amendement déposé par le gouvernement qui suspend la principale réforme économique de l'ère macronienne. Ce qui est vrai, Macron en a parlé comme de la mère de toutes les réformes. C'est sa réforme essentielle de son deuxième mandat. Alors lisons l'édito, on a lu l'édito de Libé, de Gaëtan de Capelle dans le Figaro. Qu'est-ce que pense monsieur de Capelle de cette histoire? Et maintenant, l'estocade. Au terme d'un marchandage honteux, les députés s'apprêtent à voter la suspension de la réforme des retraites. Ils le feront avec l'assentiment du gouvernement et du bloc central terrifié à l'idée d'une censure ou d'une dissolution. Pour complaire à l'archi-minorité socialiste qui n'en croit pas ses yeux, le zèle a même été poussé jusqu'à élargir la suspension à une cohorte de gens qui jusqu'ici n'étaient pas concernés. Ah non. Ah non, 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 pardon, pause. Très gentiment, Rimka dit « Ça revient quand, quand question pour un champion à 18h tous les jours ?» Donc moi, je réponds pas, je réponds plus à ce sujet parce que ça, c'est un truc qui, dont on a beaucoup parlé en juin et on est passé à autre chose. Mais je vois Aude Linox, qu'on adore ici, qui dit « Il n'y a pas assez d'audience, malheureusement. » Pause, je suis obligé d'arrêter. Mais quiconque s'est penché sur le sujet sait que ça n'est pas ça. Question pour un champion, quand ça a été arrêté en juin pour passer des missions quotidiennes au week-end, on était numéro 1 ou numéro 2 des audiences, toutes chaînes confondues, tous les jours. Et même la direction de France Télévisions l'a reconnu et n'a jamais évoqué l'audience parmi les raisons de l'arrêt de Question pour un champion semaine. Hein ? Ça cartonne Question pour un champion. C'est juste qu'il n'y a plus une thune à France Télévisions. Donc voilà, ils dégraissent, ils réduisent des budgets, ils suppriment des émissions, ils font passer des émissions quotidiennes en hebdo, ils mettent de plus en plus de rediffusions. Donc pardon, je ne peux pas laisser passer ça. Donc voilà, bon, qu'on se le dise. Il n'y a plus une thune, il n'y a plus une thune, mais qu'on ne nous dise pas, question pour un champion, vous n'avez pas d'audience. On était numéro 1, numéro 2, toutes chaînes confondues, tous les soirs. Point. Et on retourne à la réforme des retraites. Alors, impardonnable, nous dit Gaëtan Capel du Figaro sur la suspension de la réforme des retraites. C'est bon, on en parle depuis juin, on peut passer à autre chose en vrai. Hein. Ils ont pris une mauvaise décision, je ne vais pas passer ma vie dessus. Hein. Non, je parle de question pour un champion du coup. Dans l'absurdité économique, dit Gaëtan Capel, on fait difficilement mieux. Tout a été dit sur la situation catastrophique de notre système qui court à la faillite. La France vieillit. Les actifs sont toujours moins nombreux à financer des retraités toujours plus nombreux. Suspendre une réforme déjà considérée comme insuffisante est en soi une aberration. Accroître par la même occasion le déficit qu'on avait pour mission de réduire est une trahison. Vous voyez, c'est pas tout à fait le même regard. Multiplier les hausses d'impôts et sacrifier la compétitivité de l'économie pour financer ce cadeau empoisonné au PS et au RN est une abomination, écrit Gaëtan de Capel. À cette faute impardonnable s'en ajoute une seconde. Pour des motifs purement politiciens, il va se trouver à l'Assemblée une majorité d'élus pour présenter la chose comme une grande victoire sociale. C'est en réalité, dit le Figaro, une lourde défaite de la morale à l'égard des jeunes générations à qui on va léguer la conscience tranquille, une charge financière insupportable. Je vais vous lire après. Politiquement enfin, il n'existe pas de degré plus élevé dans l'échelle de Richter de l'humiliation. L'enterrement de la seule réforme de ces dernières années sur fond de choc fiscal détruit les derniers vestiges du macronisme. Contrairement aux promesses de réhabilitation de la valeur travail, il entretient le mirage qu'il est possible de redresser la France sans se retrousser les manches. Reculer en rase campagne pour un compromis boiteux sur une réforme si importante, arrachée au terme d'une âpre bataille politique, crée enfin un dangereux précédent. Avis à ceux qui prétendent vouloir gouverner la France, désormais plus rien ne pourra être tenu pour acquis, même pas l'essentiel. Bon, ça, c'est le Figaro. Allez, à vous maintenant. Léov nous dit, il a jamais travaillé à l'usine, ce monsieur. Est-ce que vous partagez cette analyse ou pas ? Merci Cathy Préfleury. Merci Jox. Merci Elon Musk, c'est bizarre ça. Merci, merci Jeufus, merci Fabienne. Tony Perper, oui enfin, Samuel Etienne. Oui enfin Samuel Etienne. Hein, j'ouvre le débat, je pose la question. La durée de vie des générations ne fait que s'allonger. Pourquoi l'âge de départ à la retraite est un si gros problème ? Question d'une personne vivant à l'étranger devant travailler jusqu'à minimum 67 ans, nous dit Tony. Oui enfin Samuel Etienne. Merci. Merci May Lilith. Le souci, c'est de savoir à qui on demande de se retrousser les manches, me dit Larksen. Pour le Figaro, on sait tout de suite à qui il pense. Indice, ça n'est pas les ultra-riches. Aline, de l'autre côté, nous dit le pays est dans un gouffre financier, il faut trouver des solutions. Dis donc, Tony Perper, en plus, tu spams ? Pas bien ça, hein. Tu sais que je lis tous les messages, moi, c'est pas la peine de le coller 10 fois. MMG nous dit, je trouve aussi que la droite a rendu en partie le pays ingouvernable et a réduit les moyens nécessaires pour combler le déficit des retraites. Merci, Diratek. Le RN a voté quoi? Le RN a voté pour la suspension de la réforme, comme les socialistes. Aline qu'on lisait tout à l'heure, nous dit à nouveau, il vaut mieux une réforme des retraites que plus de retraites. Je vous lis. T'inquiète, Tony, t'inquiète, mais je lis tout, moi. Suti Buffotto, il faut aussi penser à la durée de vie en bonne santé, pas seulement à l'espérance de vie tout court. Les gens qui taffent en usine toute leur vie et finiront en retraite à 67 ans, complètement brisés, va profiter de ta retraite dans ces conditions. Alors, c'est pas 67 ans pour les ouvriers. Hein. Avec le nombre d'années de cotisation, c'est quoi l'âge légal aujourd'hui? C'est 64 maintenant. Et puis pour les carrières longues, pour les gens qui n'ont pas fait d'études et qui ont commencé très très tôt, il y a moyen de partir un peu plus tôt, quoi. Mais disons, on va dire que c'est max 64, hein, on va dire, pour un ouvrier. Enfin, c'est déjà peut-être trop tard. Hein. Mais à aucun moment, quelqu'un qui travaille dans une usine va partir à 67 ans. Aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, hein. Peut-être demain, hein. Peut-être demain, hein. D'ailleurs, il y a Gaston qui dit « C'est étonnant que ce ne soit pas fait en fonction de la pénibilité au travail. Un mineur, c'est pas comme un boulot de bureau. » Merci Anthony BCHT. Qui va t'embaucher à 58 ans? Vénus officielle pose une bonne question. Hein. Quand vous voyez comment les seniors sont traités sur le marché du travail en France, c'est bien beau de demander aux gens de travailler plus longtemps, mais encore faut-il qu'il y ait du boulot, quoi. Après, ce genre de débat n'est qu'un écran de fumée pour ne pas répondre à la vraie question, nous dit Larksen, et je suis assez d'accord avec toi. La vraie question étant Invisimeuf ou Aurore. Ici, on a voté Invisimeuf. Après, il faut avoir la ref de cette blague, quoi. Avoir un papa qui a 50 ans, me dit Excelsior. 50 ans passés, cassé de partout à cause du travail en usine et savoir qu'il doit aller jusqu'à 64 ans, c'est ouf. Salut Maïlidit. C'est mon super pouvoir, je lis très vite. Voilà. Fred, mon père est carrière longue, ouvrier bâtiment, 64 ans, c'est déjà beaucoup trop tard, il a 60 ans, il est cassé de partout. Pourquoi ne pas ajouter de la capitalisation à un certain niveau de retraite? Pourquoi payer pour des retraités qui gagnent beaucoup d'argent? La question de la capitalisation, le débat, on va en parler de plus en plus souvent en France, vous allez voir. Voilà, Mando nous dit, ma mère est dans ce cas, 58 ans, licenciement économique, c'est très compliqué de retrouver derrière. Je vous lis. En tout cas, merci pour les échanges. Bon, alors le Figaro se lamente, vous l'avez compris ce matin. Voilà, et notamment pour des raisons budgétaires. Le Figaro se met du côté de l'argument budgétaire en disant, vous savez, en France, on a une dette gigantesque, on a une charge de la dette, des intérêts qui explosent. Et là, c'était en fait une source d'économie, cette réforme des retraites, qui disparaît. Après, c'est l'argument qui est développé dans cet article. Après le gel de l'âge de départ, les politiques, c'est ça, les finances publiques privées d'économies substantielles. Lisons rapidement pour comprendre un petit peu ce que veut dire le Figaro. Une victoire pour la gauche, mais à quel prix, se demande le journal. Les députés devraient entériner, donc blablabla, aujourd'hui la suspension, ça on l'a dit. Voilà. Un renoncement au prix fort, écrit le journal. La Cour des comptes a rendu deux rapports sans équivoque, martelant que les finances du système allaient dans le rouge, et malgré la réforme Borne. Le déficit cumulé devrait atteindre 15 milliards d'euros par an d'ici à 2035, 30 milliards d'euros à partir de 2045. Pour y faire face, la Cour des comptes a proposé des solutions, sans surprise, mettre en pause le passage progressif de l'âge de départ de 62 à 64 ans n'en faisait pas partie. À l'inverse du chemin qui devrait être suivi selon le Figaro pour dresser la barre, ce qui va être voté aujourd'hui prévoit donc de mettre en pause la réforme jusqu'en janvier 2028. Qu'est-ce qui va être voté aujourd'hui, c'est ça. Figeant l'âge légal de départ à 62 ans et 9 mois pour les futurs retraités, en tout cas ceux nés au cours du premier trimestre 65, pour un coût estimé par le gouvernement à 100 millions d'euros en 2026 et à 1,4 milliard d'euros en 2027. Le prix pour les finances publiques devrait rester faible en 2026, hein, selon un économiste qui s'appelle Frédéric Bizarre, 400 millions d'euros. À plus long terme, ce sera cher, très cher, dit-il. Hein. Il est question de plusieurs centaines de milliers de personnes. Il faudra compter alors en milliards d'euros. Hein. Mais c'est aussi la quantité de travail qui en pâtit et donc notre système économique dans sa globalité, dit un autre économiste. Ces renoncements seront préjudiciables pour les comptes sociaux, alors que la réforme de 2023 était loin d'être inutile. Sans suspension. Celle-ci aurait engendré une économie de 10 milliards d'ici à 2030, selon la Cour des comptes, notamment grâce au recul de l'âge de départ, résultant une réduction du nombre de nouvelles pensions à verser tout en augmentant le nombre d'actifs qui cotisent. Quand tu retardes l'âge de départ à la retraite, bah, tu as moins de pensions à payer. Et les gens qui ne sont pas à la retraite, qui sont censés travailler, je dis bien censés travailler, s'ils ont un emploi, eh bien ils cotisent. Et donc c'est doublement vertueux, quoi. Censé travailler. Dans un rapport publié en juin dernier, le Conseil d'orientation des retraites, le COR, hein, à la suite de l'article est où? À quoi? À quoi? À quoi? À quoi? À calculer comment équilibrer le système de retraite sans un effet récessionniste. Il faudrait reculer l'âge de départ à 66,5 ans en 2070. Donc on n'est plus à 62, on n'est plus à 64, il faudrait aller à 66,5 d'ici 2070. Décalage qui permet de favoriser l'emploi tout en engrangeant plus de cotisations et de recettes liées à la consommation, alors que les autres leviers existants, par exemple baisser le montant des pensions ou augmenter les cotisations salariales et patronales, ont tous un effet négatif sur le pouvoir d'achat des travailleurs ou le bénéfice des entreprises. C'est intéressant parce que Le Figaro nous dit ici, oui, il y a d'autres solutions. Hein? On peut. Alors, la solution dont Figaro veut pas entendre parler, c'est laisser exploser la dette. L'autre, c'est de baisser le montant des pensions. L'autre encore, c'est d'augmenter les cotisations salariales et patronales. Mais Le Figaro dit, s'appuyant sur ce rapport du COR, oui, mais non, en fait. Le mieux, c'est que les gens travaillent plus longtemps. Voilà. Bon, vous ne serez pas surpris d'apprendre que dans le Figaro, le patron du MEDEF, le patron des patrons, le syndicat patronal, est vent debout contre cette suspension, hein, une hérésie. Hein, et vous avez aussi un édito de Guillaume Tabar qui doit dire peu ou prou la même chose. Et dis-toi qu'ils sont prêts au Rassemblement National, d'ailleurs. Voilà. Je vous lis. Oula, trop de messages, trop de messages. Waouh, c'est bien, c'est bien. Après, on peut tout à fait supporter un système de retraite en déficit, nous dit Coconut, si on est bénéficiaire par ailleurs. Mais vu que la droite sabre les recettes du budget depuis des années, et du coup aussi les dépenses pour compenser. Mais au bout d'un moment, il y a déjà 3 millions de chômeurs en France, il n'y a pas assez d'emplois, me dit Valou Leroux, et ils veulent rajouter toujours plus de gens sur le marché de l'emploi, ça n'a aucun sens. Je vous lis, hein, je suis en train de vous lire. Je vous lis. GZD dit, je trouve que le vrai débat ne devrait pas être dans l'âge auquel on prend sa retraite, mais plutôt le nombre d'années travaillées avec possiblement un facteur de pénibilité. Alors, facteur de pénibilité, j'entends. Nombre d'années travaillées, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que, bon, je pense que GZD, tu es trop jeune et tu. Enfin, trop jeune. Tu t'es sans doute pas intéressé encore à ta retraite. Mais en fait, l'âge légal de départ à la retraite, c'est l'âge légal à partir duquel tu as le droit de partir en retraite. Mais en fait, pour te permettre de partir en retraite à un taux plein, de toucher la retraite auquel tu as droit, il faut un nombre de trimestres de cotisation. Voilà. Ah bah, tu le sais déjà, il faut 42 annuités. Donc c'est déjà le cas. C'est déjà le nombre de trimestres cotisés qui te permet de toucher ta retraite à taux plein. Mais en plus de ça, on met un âge légal de départ à la retraite. C'est-à-dire que même si tu as, je dis n'importe quoi, une retraite à taux plein à 62, bah on te dit, t'es gentil, tu vas attendre 64. C'est ça le truc. Et ce que proposent d'autres, et on va en parler dans un instant, c'est la retraite à points. Et ben certains proposent justement qu'on abandonne toute notion, et ça va te faire plaisir, j'ai des aides, d'âge légal de départ à la retraite, en disant on met que des points, que des trimestres de cotisation. Tu as les trimestres, tu pars, quel que soit ton âge. Voilà. Tu veux partir à 60 ans? Il n'y a aucun problème. Bon, après, tu auras la retraite qui correspondra à ton nombre de points de trimestre cotisé, pour reprendre le système d'aujourd'hui. Voilà. Donc, en fait, on partira quand on voudra. Il n'y aura pas d'obligation. Le problème, c'est qu'évidemment, la retraite, le montant de ta retraite sera très, très lié à ton nombre de points. Ça, on va dire, j'ai l'impression que le système laisse plus de liberté. Après, en termes de pouvoir d'achat, pour les petites retraites, ça peut être très compliqué, quoi. Mais on va se pencher là-dessus. Ça avantage les riches, dit Cormel. Oui, c'est aussi mon sentiment. Ouais. Merci Beta sans froid 79. Merci Anthony. On va lire ça d'ailleurs. Voilà. Je vous lis, avant de parler de la retraite à points, parce que ce qu'on fait aussi ici, c'est de s'interroger en se demandant, attendez, tout le monde dit que ça marche pas, alors quel pourrait être l'autre système? On va se pencher là-dessus. Je vous lis l'édito rapidement des Échos là-dessus. Les Échos, journal libéral, proche des entreprises, donc. On ne doit pas être trop éloigné de la ligne du Figaro. Retraite, retour vers le futur. 6 ans et 2 mois après le lancement du chantier des retraites par Emmanuel Macron, 2 ans et 6 mois après la promulgation de la loi Borne, les députés vont donc se prononcer aujourd'hui sur la suspension de la remontée progressive de l'âge légal de départ vers 64 ans. Le vote sera baroque et façon puzzle. Les socialistes, le RN, le MoDem vont voter pour. LFI, Horizon contre, Renaissance s'abstiendra. À la fin de ce mercredi, et sauf surprise, la France devrait donc être le seul pays à avoir reculé sur une réforme des retraites, en dépit des évidences démographiques, écrivent les Échos. À chacun sa lecture, elle est définitivement morte et enterrée aux yeux des socialistes, seulement décalée d'1 an aux yeux de ses partisans. Le gouvernement devrait-il, pour plaire au PS, aller encore plus loin que la CFDT ne le demande sur les carrières longues? Non. Mais la question principale qui se pose au-delà de cet épisode poétique et pas du tout économique est celui-ci. Donc voici le sujet selon les Échos. L'âge couperet de départ en deçà duquel on ne peut pas partir en retraite disparaîtra-t-il après la présidentielle de 2027? Autrement dit, redescendra-t-il à 62 ans? Restera-t-il bloqué après 63 ans? Ou reprendra-t-il un jour sa marche en avant et avec qui? La gauche et les syndicats ont leur solution, une hausse des prélèvements, alors même que les revenus nets augmentent peu. La droite et le centre cherchent les leurs de solutions. Gabriel Attal, et ça on va en parler dans un instant, propose de basculer vers un système très axé sur le nombre d'années de travail, hein, sauf qu'une forte décote, peut-être de l'ordre de 15%, s'appliquera sans doute à ceux qui partiront avant 65 ans, c'est ce que je vous disais. Plus de liberté, mais des retraites potentiellement plus petites. Voilà, bah, d'ailleurs les Échos le disent ici. Avec un principe, plus de liberté, mais moins de pension. Hein, on en revient toujours au point de départ, les miracles n'existent pas, écrit Dominique Seux. D'où la question posée par Lacroix ce matin, est-ce que le retour du débat sur la retraite à points est une bonne idée ou pas? Voilà. Du coup, on partira jamais plutôt quand on a de petits salaires, de 10 kiwis tout mou. Ben oui, sans doute. Alors lisons cet article dans La Croix, pour comprendre le sujet. La retraite à points, le retour. Ça va nous rappeler des épisodes sur ce débat qui remontent à quelques années. 5 ans après la mise au placard de la grande réforme voulue par Emmanuel Macron à l'époque, les députés Renaissance ont annoncé une proposition de loi renouvelant le projet du premier quinquennat d'un régime universel de retraite par points. Nous savons bien qu'il sera difficile de le faire adopter dans la configuration actuelle du Parlement, reconnaît Gabriel Attal, hein, qui est le secrétaire général du parti et président du groupe à l'Assemblée, mais nous voulons contribuer au débat. Retour du débat. Double débat. D'abord celui de la conférence sociale sur le travail et les retraites voulue par Le Cornu, mais surtout celui de l'élection présidentielle de 2027, dont Attal pressent que les retraites seront un sujet essentiel. D'ailleurs, moi, il va falloir que je vous propose quelque chose sur les retraites. Puisque j'ai prévu de me présenter en 2027, il va bien falloir qu'à un moment, je travaille sur le sujet. Et donc, il va falloir qu'on fasse plusieurs streams. Salut Romano. Il va falloir qu'on fasse plusieurs streams ensemble de co-construction de ce programme et notamment de ce qu'on fait sur les retraites. Parce que c'est bien beau de critiquer, de dire blablabla, mais il va falloir qu'on se retrousse les manches et on va dire voilà ce qu'on fait. Bon, mais c'est pas ce matin, mais on le fera. D'où l'idée de renouer avec l'intuition macroniste d'un régime unique, où chaque euro cotisé ouvrira les mêmes droits que l'on soit salarié, fonctionnaire ou indépendant. Voilà. Mais sans mesure d'âge. Une façon par Gabriel Attal, donc sans mesure d'âge. Une façon, merci May, pour Attal de se démarquer de son concurrent au centre, Édouard Philippe. Il est au centre, Édouard Philippe? Quand je dis son programme, on peut pas dire qu'il est à droite plutôt, non? Je sais pas. Enfin, en tout cas, lui, il propose un âge légal de départ à 65, 66 ou 67 ans. Voilà. On sent qu'il est à deux doigts de nous proposer 70 quand même. Sans citer ce dernier, le chef de file député Renaissance a des mots très durs pour ceux qui ont dévoyé le projet de 2019-2020 en y introduisant justement une mesure d'âge, une référence directe à l'âge pivot voulu coûte que coûte par Édouard Philippe, qui avait cristallisé l'opposition à l'époque à ce système de retraite à points. Le second quinquennat d'Emmanuel Macron avait finalement accouché d'une réforme paramétrique repoussant l'âge légal de départ à la retraite de 62-64 ans. Les épisodes précédents, la vraie réforme des retraites voulue par Macron, c'était une grosse réforme pour aller vers un nouveau système à points. Sauf qu'à l'époque, Édouard Philippe a voulu un âge pivot, voilà, un âge minimum de départ à la retraite, et selon Attal, ça a coulé la réforme. Voilà. Et du coup, on a fait cette réformette avec le report de 62 à 64 ans de l'âge légal des départs à la retraite. Pour Gabriel Attal, les mesures d'âge ne changent rien, pour que ce soit clair. Je le cite, « On aboutit à des réformes incessantes dont on nous dit qu'elles seront toujours la dernière ou la dernière chance de sauver notre système, mais qui fracturent notre société et nécessitent une nouvelle réforme après 2, 3 ou 4 ans. Voilà. Résultat, la jeune génération, ma génération, dit Gabriel Attal, est convaincue qu'elle n'aura pas de retraite et que notre système par répartition, hérité de la Seconde Guerre mondiale, hein, du Conseil national de la résistance, est voué à disparaître, ce que pensent beaucoup de jeunes. Renaissance propose donc de changer le système en reprenant l'idée d'un régime unique à points, mais sans points. Hein ? Il faut que je relise cette phrase. Renaissance propose donc de changer de système en reprenant l'idée d'un régime unique à points, mais sans points. Attendez, je pense qu'on va comprendre. Pour plus de lisibilité, les points seront, directement convertis en euros. De la première à la dernière minute de carrière, chacun saura à combien il a le droit en euros. Ok, bon, c'est la même chose en vrai. La proposition fait sauter toute notion d'âge légal de départ. Voilà. Il n'y aura plus d'âge légal de départ. Chacun sera libre de choisir le moment où il part, explique Gabriel Attal. Imagine, études supérieures, 24 ans, tu termines. Tu trouves un boulot, jour 1, tu vas voir ton patron. T'as 25 ans et un jour, tu lui dis, c'était sympa, j'ai bien aimé cette carrière de 24 heures chez vous, mais je prends ma retraite. Ce sera possible. Bon, le problème, c'est que ta retraite, avec un jour cotisé, elle ne sera pas folle. Hein, oui, bah, ok, monsieur, pas de problème, donc vous avez le droit à 0,010 centimes par mois. Voilà. Donc, il n'y aura plus d'âge légal. Oui, comme le dit Alex, allez, bisous. Voilà. Les assurés pourront arbitrer librement entre âge de départ et montant de pension. Voilà. L'incitation se fera via la durée de cotisation et des mécanismes de décote ou de surcote. Ah, bon. Les mecs, ils n'ont pas inventé le fil à couper le beurre. Hein. C'est en gros, moins tu cotises, moins tu auras de retraite. Plus tu cotises, plus tu auras de retraite. Ok. Le projet prend néanmoins la précaution d'imposer un montant minimal de pension pour pouvoir liquider sa retraite. Ah, il n'y aura pas un âge légal de départ à la retraite, minimum, mais il y aura un montant minimal de pension. Donc, mon étudiant plus un jour de 25 ans, là, en vrai, il ne pourra pas. Montant minimal de pension déterminé par les partenaires sociaux. Qu'en pensent les partenaires sociaux, justement ? Le camp patronal devrait dire ok. Côté syndical, si la CGT est opposée à toute remise en cause de l'actuel système hérité du Conseil national de la résistance, le projet pourrait convenir à une CFDT depuis longtemps opposée à l'âge de départ unique. Voilà. Lui préférant un départ en fonction de la durée de cotisation. Ça pourrait aller à la CFDT. Ce dont se rapproche le projet des députés Renaissance. Mais cette proposition porte aussi sur un autre volet, et là on parle de capitalisation, ça y est. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on y arriverait. Axé sur une capitalisation accessible à tous. Plutôt qu'une nouvelle cotisation obligatoire qui rognerait encore plus les salaires, Renaissance imagine un système plus incitatif financé par un crédit d'impôt, les fruits de l'épargne salariale ou encore un fonds alimenté par un versement de 1 000 euros à la naissance de chaque enfant. C'est bien beau tout ça. C'est bien beau la capitalisation. C'est bien beau un système de crédit d'impôt. Encore faut-il avoir du capital. Encore faut-il avoir de l'argent à capitaliser. Encore faut-il même pouvoir payer des impôts. Parce que pour bénéficier d'un crédit d'impôt, il faut payer des impôts. Et tout le monde ne paye pas des impôts en France. Les gens qui ont les plus petits revenus en France ne payent pas d'impôts sur le revenu. Voilà. Donc, ça a l'air de favoriser quand même les gens plutôt à l'aise. Hein. Je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais... Donc ce fonds, on parle des 1 000 euros à naissance de chaque enfant, pourrait être abondé par les versements des parents et des grands-parents. Ouais, mais enfin, ceux qui ont de la thune, quoi, pour dire les choses, quoi. Hein ? Car pour lisser le passage entre les deux systèmes, Gabriel Attal propose que seuls qui entreraient sur le marché du travail après la réforme pourront en bénéficier. Est-ce que ça n'existe pas déjà avec le PER? Je suis d'accord avec ce que Tiron. Le plan épargne retraite, c'est déjà ça. C'est déjà une façon d'améliorer ta retraite, à condition que tu acceptes de placer de l'argent sous ton PER. Est-ce que ça n'existe pas déjà la capitalisation avec le PER? Voilà. Les réactions syndicales devraient être diverses. Chiffon rouge pour la CGT. La capitalisation n'est plus un tabou du côté des réformistes de la CFDT ou de la CFTC. De quoi ouvrir des débats syndicaux passionnés. Ok. Vous voyez, sur le papier, on se dit « Ah ouais, tiens, il y a un nouveau système, la retraite à points. » Puis en fait, on se rend compte que c'est pas si révolutionnaire. Hugo Biache, merci pour le troisième mois d'abonnement. Merci. Merci encore, Romano. Merci Alexis, merci Bibi, merci Mimi Sylvada. Je vous lis. Merci Lelou. Il y a Gemma qui dit, est-ce que c'est normal que je comprenne à peu près rien de ce dont vous parlez? Oui, en vrai, c'est des sujets qui sont un peu ardus quand même. Hein. Ah, je vous lis. Bravo Sugar pour le podcast, bravo. Je vous lis. Merci Hugo Biache, je n'avais pas vu. Merci Hugo. Merci Hugo. Ah, en courant? Ouais, c'est trop bien. Non, en vrai, c'est intéressant. Est-ce que par capitalisation, il n'y a pas un risque de perdre de l'argent que tu as investi? Oui, aussi par ailleurs, oui. Ouais. Ouais, même j'ai raison, on aspire tous à la même chose. Et même j'ai dit, moi, j'aspire pas à un système révolutionnaire des retraites. Juste un système juste, un système qui permette à chacun d'entre nous d'être serein après avoir fini sa vie pro et que chacun puisse bien anticiper sa fin de carrière. Ce serait l'idéal. Mais aujourd'hui, ce sujet, il crée beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que tu sais ce que toi tu aurais proposé pour les retraités, Samuel? Non. Mais il va falloir qu'on se penche sur le sujet. Hein. Et en vrai, ça va pas être facile. Hein. Il va falloir en faire quelques streams là-dessus. Hein, qu'on se mette d'accord. Et on va aller voir les travaux des économistes, on va voir les propositions politiques, on va voir s'il n'y en a pas eu qu'une idée qui est à peu près acceptable, quoi. Moi, je pense que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, même avec des revenus modestes, il doit pouvoir bénéficier d'une retraite qui lui permette de vivre décemment jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Voilà. Donc ça c'est la base. Ça, c'est la base. Après, il faut intégrer aussi, sans doute, dans cette équation, le fait qu'on a un petit problème de pyramide des âges, avec aujourd'hui pas assez de cotisants pour les personnes qui sont à la retraite. Bon, ça va durer un petit moment. C'est un problème de naissance en France. Bon, bah, faut pas complètement se fermer les yeux là-dessus. Bon, alors il faut trouver une manière de passer ce cap un peu compliqué. cet argent, on peut le trouver sur le système, hein, avec une baisse du montant des pensions, mais peut-être pas de toutes les pensions. On peut aussi effectivement augmenter les cotisations. Mais après, on va nous dire, bah oui, mais c'est plus de charges pour les salariés et donc moins de pouvoir d'achat. Et puis, plus de charges pour les entreprises, ok? Ou alors, on peut trouver cet argent ailleurs aussi. Ailleurs que dans l'écosystème des retraites. En disant, c'est un mauvais moment à passer, hein, pour notre système qui est un système solidaire par répartition. Et donc, bon, on décide d'aller chercher l'argent ailleurs, quoi. Moi, je pense qu'il y a un truc à creuser là. Moi, je pense qu'il y a un truc à creuser là. De finalement, ce problème qui se pose à nous, il est à l'échelle de l'histoire, il est sur un certain nombre d'années qui est calculable, quoi. Mais on en parlera. Allez. Là, c'est l'Ukraine sur le papier, mais l'Ukraine, j'en parlerai tout à l'heure parce que je vais rester en France. On va parler de santé, on va parler du cancer du poumon chez les femmes en France parce que c'est un peu, j'ai envie de vous sensibiliser là-dessus. Hein? Ok? Allez, c'est le deuxième sujet de ce matin. Merci Kevin Mag. Alors, on en est où? Sommaire. On est à 1h20. Ok. Les femmes et le cancer du poumon. Là, il y a... Les chiffres sont pas bons. Hein. Il y a un truc qui va pas. Pourquoi les femmes? Vous allez voir. Parce qu'en fait, les femmes rattrapent, hélas, leur retard en la matière. Je dis hélas, vous allez comprendre pourquoi. Parce que longtemps, ça a été un cancer qui était plutôt masculin. Les femmes et le cancer du poumon. C'est un article dans Le Parisien que je trouve assez intéressant. Et je vous change le titre aussi. Ok. Tac. Ok. Merci Sugar, t'as compris l'idée. Ok. Et TikTok, je vous mets la petite flèche. Tabagisme passif et pollution de l'air. Bien sûr, alors ça, la pollution de l'air, c'est un scandale. Alors l'essentiel des cancers du poumon touche plutôt des fumeurs, mais il n'y a pas que. Hein. Hein, on respire en France, notamment dans les grandes villes, un air qui est catastrophique. Quoi. Hop, les femmes et le cancer du poumon. Let's go. Donc c'est la une du Parisien ce matin. L'inquiétant constat, cancer du poumon chez les femmes, de quoi s'agit-il? Près de 20 000 femmes sont diagnostiquées chaque année. Cette maladie qui progresse est aujourd'hui la première cause de mortalité par cancer devant celui du sein. Cette maladie, le cancer du poumon, est aujourd'hui la première cause de mortalité par cancer devant celui du sein chez les femmes. Lisons l'article. Les chiffres qui font peur. Près de 20 000 femmes sont à présent touchées chaque année. Face à cette hausse constante, la France pourrait sortir l'arme du dépistage généralisé. Le Parisien qui propose aussi des pistes, des solutions. Merci Viazel pour le Prime. Merci, merci Darkdown55. Merci Darkdown. Soudainement, c'est le début de l'article, Samira se met à cracher du sang. Il ne pouvait pas venir des gencives, il y avait beaucoup trop de sang, ça a tout de suite fait un tilt dans ma tête, il y avait un grave problème. Raconte-t-elle. Nous sommes en 2013 à l'époque, la francilienne a 51 ans, elle rentre à Paris. Depuis un voyage à l'étranger, un premier médecin soupçonne la tuberculose à tort. Hein? Le bon diagnostic est posé 3 mois plus tard, cancer du poumon à un stade très avancé. Même si je m'y étais préparé psychologiquement, ça fait un choc, souffle Samira. Ce crabe, le cancer, est stable chez les hommes, qui sont environ 33 000 à tomber chaque année malades du cancer du poumon en France. On est à 20 000 chez les femmes. Et chez les femmes, près de 20 000, donc désormais diagnostiquées chaque année, une hausse d'environ 4% par an, ce qui est important. Le cancer du poumon vient de passer première cause de mortalité par cancer chez les femmes devant le cancer du sein. C'est pour ça qu'on en parle ce matin. Responsable d'environ 85% des cancers du poumon, le tabac. Donc oui, le cancer du poumon, il peut être provoqué par d'autres choses, notamment par la pollution atmosphérique, mais les scientifiques estiment que les cancers du poumon sont provoqués à 85% par le tabac, qui est le facteur de risque principal. Or, les hommes ont commencé à s'allumer des cigarettes beaucoup plus tôt que les femmes. Dans les années 50, 70% des hommes fumaient, seulement 10%. C'est ce qu'explique le président de l'Alliance contre le tabac. Les femmes s'y sont largement mises après 68, quand la clope au bec était présentée comme un vecteur d'émancipation. Longtemps, le cancer du poumon a été considéré comme un cancer purement masculin. Ce n'est plus aussi simple, c'est même devenu un sujet franchement préoccupant chez les femmes, dit une médecin. Donc les femmes ont commencé à fumer beaucoup plus tard, hein, et elles ont aussi freiné la cigarette après les hommes. Le pic de fumeurs quotidien a été atteint autour de 1980, hein, et pour les fumeuses, juste avant les années 2000. Comme il faut quelques décennies pour que le tabagisme provoque un cancer, bien sûr, eh bien c'est aujourd'hui qu'on en paye le prix. Et il y a Lana qui dit, et tu as bien raison, minute prévention, pensez à vous faire dépister, c'est la première étape qui peut sauver des vies. Parce que plus un cancer est pris tard, et moins on peut en guérir. Moins on a de chances d'en guérir. Actuellement, seuls 20% des malades d'un cancer du poumon, waouh, on parlait de prévention, actuellement, seuls 20% des malades d'un cancer du poumon sont toujours en vie 5 ans après le diagnostic en moyenne. Celui-ci se développe souvent à bas bruit, sans symptômes, c'est le problème de ce cancer, à partir d'une petite tumeur dans un poumon d'une capacité de 4 litres, explique un professeur. Samira, dont on parlait tout à l'heure, peut en témoigner. Avant de cracher du sang, cette grosse fumeuse, depuis l'adolescence, n'avait jamais ressenti de troubles suspects. Il est très vicieux, ce cancer. On s'en rend compte, la plupart du temps, c'est trop tard. Une fois le choc annoncé, il a d'abord fallu lui retirer le lobe supérieur du poumon droit, puis 5 séances de chimiothérapie pour neutraliser d'éventuelles métastases. Samira va perdre ses cheveux, ses cils, ses ongles. Je me disais que c'était pas le cancer qui allait me tuer, mais la chimio. Parallèlement aux nouveaux traitements et aux thérapies ciblées, une autre arme pourrait changer la donne à moyen terme, le dépistage. L'idée est que toutes les personnes à risque, que quelqu'un disait tout à l'heure, et c'était intéressant, mais aucun médecin va vous prescrire comme ça un scanner du poumon comme ça. Alors, ce serait quoi l'idée? L'idée est que toutes les personnes à risque, à savoir les gros fumeurs actuels ou ceux qui ont beaucoup fumé dans le passé, ayant entre 50 et 74 ans, passent un scanner régulièrement. Tous les ans, par exemple. C'est ça l'idée. Plusieurs études ont montré qu'une telle stratégie permettrait de réduire de 20% la mortalité. Et même environ 35% chez les femmes, qui sont plus susceptibles de contracter la maladie. On pourrait passer d'environ 3/4 des cancers identifiés à un stade tardif à 3/4 de diagnostic précoce. Avec à la clé des traitements moins lourds, hein, et un risque largement plus faible d'en perdre la vie. Vous avez des mots très intéressants dans le chat. Il y a Alpha Jack qui dit « Salut les gars, ma mère fume, j'essaie de la sortir de ça car mon frère a déjà une histoire de cancer. Ça a choqué toute la famille, mais ça n'a pas changé ma mère sur la clope. Est-ce que quelqu'un a une idée pour la convaincre d'arrêter ou de diminuer ?» C'est pas facile. Hein. Je vous lis. Hein. Alors, Poupouton témoigne, moi j'ai fait un scanner très facilement, mon médecin m'a fait une ordonnance sur simple demande, j'ai eu facilement un rendez-vous dans une clinique d'imagerie médicale, mais c'était cher et sans ma mutuelle d'entreprise, ça m'aurait coûté 100 balles. Alors, un très vaste programme s'apprête à démarrer dans toute la France. Impulsion, c'est son nom, va proposer à 20 000 personnes à risque de passer un scanner. Hein? Un autre au bout d'un an, puis un tous les 2 ans. Donc, ce n'est pas qu'un projet. Ça n'est pas qu'un projet. Ah, y a un truc qui va toucher 20 000 personnes là. Le but est de s'assurer que ce dépistage est bien faisable en pratique à grande échelle. Ah oui, c'est un programme de test un peu, avant qu'il soit généralisé. Et dans 5 ans, la Haute Autorité de Santé aura à se prononcer sur la généralisation de ce programme de dépistage. Le dépistage du cancer du poumon rejoindrait alors les programmes de dépistage de cancer du sein, du col de l'utérus, le cancer colorectal. Je vous rappelle que j'ai été le visage l'an dernier de la campagne de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. Pour dire les choses simplement, j'ai été le visage du cancer du cul. Voilà. Jusqu'à 4 millions de personnes seraient concernées. Un danger est bien identifié, que des accros à la cigarette se disent que l'imagerie détectera le moindre nodule et pensent ainsi pouvoir continuer à fumer sans risque. Or, un cancer du poumon peut se développer vite et donc échapper au dépistage annuel. Par ailleurs, il ne faut pas oublier tous les autres risques liés au tabac, cancer du sein, de la vessie, de la sphère ORL, maladie cardiovasculaire. Attention, un dépistage qui revient négatif, c'est pas une incitation à fumer, quoi. Alors, on revient à Samira. Quand elle a appris sa maladie, elle a aussitôt arrêté de fumer. J'ai pris une cigarette et je lui ai dit « Une de nous deux va mourir. » Avec ma fille, on l'a aussitôt jetée et le paquet avec. La sexagénaire continue d'inciter amis et collègues à faire de même, d'arrêter de fumer. Ayant largement retrouvé la joie de vivre après 12 ans de rémission, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, elle est guérie. On m'appelle, dit-elle, on m'appelle l'ayatollah de la cigarette. Et Nuno nous dit, et puis vous banderez mou les jeunes, pensez-y. Oui, hier on s'est penché sur 7 raisons d'arrêter de fumer, 7 raisons auxquelles on pense ou on pense pas. Et il y avait notamment le fait que ça, oui, ça avait un impact sur comment dire, la vigueur des hommes. Waouh. Drôme me dit, j'ai perdu mon père d'un cancer des poumons, j'ai 3 sœurs qui, malgré avoir vécu la même chose que moi, continuent de fumer plus d'un paquet par jour. Qui représente une dépense non négligeable pour elle. Après plusieurs années, je crois que j'ai abandonné l'idée de les convaincre d'arrêter. Il faut malheureusement que je me fasse à l'idée d'enterrer au moins une de mes sœurs suite à un cancer. C'est chaud. Aston dans le chat dit, grâce à toi, depuis hier, j'arrête de fumer. J'essaie d'arrêter de fumer. Comme le dit Sugar avec beaucoup de poésie, si vous voulez avoir une poutre au lit, les garçons, vous savez quoi faire? On arrête le petit bâton, hein, je vais être encore plus clair. Hein. On arrête le petit bâton, la petite cigarette, pour avoir le gros bâton, hein, les jeunes. C'est très important. Tu peux me permettre, hein. Bon, c'est pour les clips TikTok, ça que je fais ce genre de petit résumé, quoi. Merci Thomas Walk. Pour le troisième mois. Merci Viazel. Merci Théo. Théo GBRT. Merci Tagada. Merci Chicho. C'est pas la taille qui compte, c'est pas la taille qui compte, c'est pas une histoire de taille, c'est une histoire de rigidité. Vous voulez un dessin ou quoi? C'est pas une histoire de taille, c'est une histoire que faut que le truc, voilà quoi, vive sa vie quoi. Merci Captain J. Bonjour, j'ai arrêté de fumer en début d'année en lisant un livre qui s'appelle Fumer tue, c'est ça? Disponible gratuitement sur internet, je fumais quotidiennement depuis 8 ans, je ne peux que vous le conseiller. C'est pas facile d'arrêter de fumer. Hein. Alors, on parle d'hypnose aussi, ça marche très bien chez certains. Je crois qu'on parle de plus en plus d'une opération au laser aussi, là, sur l'oreille, je crois. Voilà, il y a Thunder Poulet qui dit, honnêtement, j'y croyais pas du tout à l'opération au laser sur l'oreille, là. Mais j'ai un collègue de travail qui a fait l'opération après avoir fumé comme un pompier pendant 40 ans. Il a arrêté du jour au lendemain, et là, ça va faire 3-4 mois qu'il n'a pas touché une cigarette. Faut tout essayer, hein. Ah, Im Jallo est pas d'accord. Il dit c'est du bullshit, c'est du placebo, me dit Charlie Pops. Merci Sugar pour le clip. Et Aston me dit c'est tellement dur d'arrêter, j'ai des automatismes comme après un repas ou avec un café. Bah, dans la cigarette, t'as des produits addictifs. Hein. Merci à un homme lent pour le 32e mois. Vous êtes plusieurs à me dire que le laser c'est bullshit. Ok. Autant que les vieux fument, nous dit Akara, je comprends tellement ils ont été matraqués par les lobbies du tabac, autant les jeunes qui s'y mettent et continuent, j'ai du mal à les respecter vu l'information en continu là-dessus. Bon les amis, en tout cas, attention, ce cancer du poumon, longtemps masculin, aujourd'hui, il est aussi de plus en plus féminin. C'était l'intérêt de cet article du Parisien. Ah, il y avait d'autres choses. Ah, ça, il y a un truc que je n'avais pas vu. Pourquoi il est plus dur d'arrêter le tabac pour les femmes? Des cigarettes en moins, des kilos en plus. Pour compenser l'absence de cigarettes et tenir sur la durée, d'anciens fumeurs se mettent à grignoter de façon compulsive au risque de prendre du poids. Chez les femmes, l'obsession de vouloir garder la ligne est plus forte. C'est pas vrai, hein. Moi je suis obsédé par ma ligne. Hein. En particulier pour cette raison. Et l'addiction au tabac est probablement plus importante en particulier pour cette raison. Okay. C'est ce qu'avance une professeure qui s'appelle Marie-Pierre Revel, elle-même ancienne fumeuse. Voilà. Plusieurs éléments laissent penser que les femmes ont bel et bien plus de mal à arrêter de fumer que les hommes. En raison de ce frein psychologique lié à l'apparence physique d'abord, car c'est une réalité, arrêter de fumer entraîne souvent la prise de quelques kilos, même si c'est seulement temporaire. La société renvoie d'une femme fatale, pardon, l'image d'une femme fatale avec une cigarette à la main et une silhouette fluette. Une fumeuse n'a donc pas envie de s'arrêter car elle veut conserver cette image-là. Avance Loïc Josserand, un autre professeur. Mais ce n'est pas tout, cette addiction plus forte s'explique aussi par des spécificités hormonales. Plusieurs études ont montré que le tabagisme et plus spécifiquement la nicotine réduisaient la production d'œstrogènes. Or, ces hormones agissent sur le cerveau pour réguler l'humeur et le stress. Ainsi, les femmes fumeuses souhaitant arrêter seraient plus vulnérables aux effets négatifs du sevrage, anxiété, irritabilité. Les scientifiques nous disent qu'il est plus dur pour les femmes, pour des raisons hormonales, d'arrêter de fumer. Ha! Les difficultés seraient particulièrement marquées pendant la période prémenstruelle, caractérisée par des changements hormonaux importants. Celle-ci est souvent associée à une augmentation des envies de fumer, des symptômes de sevrage plus intenses, une plus grande vulnérabilité au stress, rendant plus ardues les tentatives de stopper la cigarette. Voilà. Alors il y a des explications assez claires, et puis les gens qui ne comprennent rien, comme Mathematics90 qu'on va mettre à l'honneur dans le chat Twitch, qui vient donc d'écrire ceci, c'est ce qu'il a compris de l'article. Je vais prendre, je pense, le ton de ta voix. Hein. Ça y est, ça va être la faute des hommes que les femmes arrivent moins à arrêter de fumer. Merci pour cette analyse complètement claquée au sol. Ça fait plaisir, ça faisait longtemps que j'avais pas lu une connerie dans le chat. Ah, parce que là, je vous trouvais un peu carré ce matin, un peu subtil, et je me disais, mais ils sont où les fous? Bah, c'est bon, on l'a trouvé. Merci pour cette analyse. Vache. T'imagines, s'il y avait que les gens dans une société, peut-être qu'on serait l'enfer. Désolé, hein. Avec le smiley à la fin, c'était évident le second degré? Pardon, c'était du second degré. Bah non, c'était pas évident en vrai. Tu sais, j'en ai qui disent littéralement ça, hein. Tous les jours, hein. Dans mon chat. Donc, c'était de l'humour. C'était de l'humour. Ah! Salut, salut, LR. Merci, Sugar Frog. Oh le pré-shot. Mais, donc plus difficile pour les femmes, plus difficile ne veut évidemment pas dire impossible. D'ailleurs, la France compte de moins en moins de fumeuses. 16% des femmes disent désormais allumer au moins une cigarette quotidiennement. Elles étaient 26% en 2015. Les hommes sont plus nombreux. Il y a 20% de fumeurs quotidiens, Hein. Ça baisse 33% d'une dizaine d'années, mais il y a plus d'hommes encore qui fument que les femmes. Mais l'écart entre les deux sexes tend à se resserrer. Et d'ailleurs, si je puis me permettre, si l'écart entre les deux sexes a tendance à se resserrer, c'est très très bon pour la natalité, ça. Hein, puisqu'il est question de réarmer la France. Donc, tout n'est pas négatif. Voilà, j'aurais envie de dire une connerie. Comme je peux pas être banni de ma propre chaîne, j'aurais envie de dire une connerie. Bah si, l'écart entre les deux sexes. Si tu réduis l'écart entre les deux sexes, c'est forcément bon pour la natalité. Bah si. C'est pas bête. Ah bah oui. Habile. Bah si, s'il n'y a plus d'écart. Enfin, vous l'avez quoi. C'est scientifique. Merci, merci Pika. Tu es le meilleur fou du bus de ce chat en réalité. Merci beaucoup Uriel. Je peux même vous faire un dessin si vous voulez. Je vais installer Paint sur mon PC et je vais vous faire des dessins d'actu moi. Et la réduction, le rapprochement entre les sexes moi, je vais vous le dessiner moi. Alors, je vois un pseudo dans le chat TikTok. Je ne sais pas ce que tu as dit, c'est quelqu'un qui te parle. Mais je vois que ton pseudo, c'est ma couille en ski. Et ça, c'est pas mal, ça. Voilà. Allez, bon, les amis, moi, je vous abandonne à quelle heure ce matin? À 11h30. Donc, ça va, on est bien. Et là, désolé, l'actu ce matin est un peu lourde. On va partir sur l'actualité internationale, quoi. Là, on va partir sur la guerre en Ukraine. Désolé, ce matin, c'est pas léger, je m'en excuse, mais j'essaierai de faire mieux demain. C'est parce que la guerre en Ukraine, ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé. Alors, j'attendais un article intéressant, je l'ai trouvé. C'est la une de la Croix. C'est la une de la Croix ce matin. L'Ukraine s'essouffle. Je vous mets le TC, on est à 1h41. Voilà. L'Ukraine s'essouffle. Je vous modifie le titre. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait n'importe quoi là. Bon, je vous le tape à la main. Il fait des blagues débiles, mais par contre, pour taper, il est pas fort. Hein. Ok. L'Ukraine s'essouffle. Ok. Je vous change le titre. Comme ça, ceux qui nous rejoignent, ils savent tout. Ils savent où on en est. Ils savent. C'est incroyable ce stream. Voilà. L'Ukraine s'essouffle, let's go. Et TikTok, je vous le mets aussi. Il n'y a pas de raison. C'est parti. Et voilà, l'Ukraine s'essouffle, let's go. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok. C'est la une de la Croix. En manque de soldats, l'Ukraine s'essouffle. Face à la supériorité numérique de l'armée russe, il y a plus de soldats, les défenseurs ukrainiens ont de plus en plus de mal à tenir leur position, en particulier dans une ville qui s'appelle Pokrovsk. Lisons. Ah, j'ai... Ah oui, il manque un F, t'as raison. Essouffle ces deux F. Ah si, tu rigoles. Autant pour moi. Ouf, affreux. Merci. La bataille de Pokrovsk met en lumière les trous qui émaillent actuellement le front ukrainien. Au-delà du choc de cette nouvelle menace de défaite, les inquiétudes sur les capacités de Kiev à maintenir... MMG, tu remarqueras que dans mon titre de sommaire, c'est aussi... Il y a aussi une faute. C'est fou ça. Je corrige. Sommaire. C'est fou parce que je l'avais bien écrit ce matin, puis je sais pas. Ce matin, je l'avais vu, je me dis tiens, c'est souffle, c'est deux F, c'est joli. Et puis j'ai fait la faute quand même. Let's go. Au-delà du choc de cette nouvelle menace de défaite, les inquiétudes sur la capacité de Kiev à maintenir une défense cohérente sont légion, tandis que Moscou continue de déverser armes et soldats. Donc je vais à l'essentiel. Donc là, il y a un gros zoom sur cette zone là qu'on voit, qui est là, regardez, qui est dans le Donbass là. Voilà, ici. Pokrovsk. Les Russes ont consolidé, nous explique La Croix. Oui, je ne vous lis pas tout le dossier, mais si vous voulez lire, c'est dans La Croix ce matin. Grâce à des infiltrations au compte-gouttes. Dans ce secteur comme dans d'autres, le front n'est plus structuré par des tranchées contiguës défendues par des unités clairement identifiées. Dans cette nouvelle configuration, la masse peut emporter la décision. Or, la masse est russe, tant dans la quantité de drones et d'artillerie que de combattants actifs. Les deux armées ont beau afficher des effectifs comparables d'un peu plus d'un million de personnes, l'Ukraine ne compterait qu'environ 300 000 hommes et femmes déployés actuellement en combat actif, les autres étant en réserve ou à des postes administratifs. Selon l'estimation d'Alexander Skirsky, commandant en chef des armées ukrainiennes, la force d'invasion russe, jadis inférieure aux effectifs ukrainiens, dépasserait aujourd'hui 600 000 hommes. Donc 600 000 hommes actifs côté russe, 300 000 côté ukrainien. La stratégie de défense de l'Ukraine n'est pas mauvaise en soi, mais l'ennemi a plus de moyens, constate un expert militaire qui s'appelle Oleh Zhdanov. Il ne regarde pas à la dépense ce régime russe, y compris en termes d'hommes et de vie humaine. C'est très difficile de faire face à ce déferlement incessant de troupes d'assaut. Alors que l'Ukraine peine à soutenir cet effort défensif autour de Pokrovsk et Mirnorad, la Russie poursuit son grignotage dans au moins 5 directions différentes. Surtout, les deux belligérants ne reconstituent pas leur rang au même rythme. Entre 17 000 et 24 000 recrues par mois pour l'Ukraine, 30 000 en moyenne pour la Russie. Parmi les réserves disponibles pour Kiev, la mobilisation à mauvaise presse au rapport alarmant du front s'ajoutent des images choquantes d'enrégimentement, c'est dur, musclés par des escouades de recruteurs déployés en pleine rue ou encore des craintes réelles concernant les vertus des entraînements militaires ou des affectations futures. Le front est tenu par des chauffeurs, des artilleurs, des cuisiniers, s'emporte un ancien commandant d'une brigade. Cette perception d'une mauvaise allocation des ressources humaines qui a pu voir des ingénieurs informatiques ou des médecins être dépêchés pour tenir des tranchées est l'une des raisons d'un malaise croissant au sein des forces armées ukrainiennes. Depuis janvier 2025, plus de 21 500 enquêtes ont été ouvertes pour désertion, plus de 160 000 pour abandon de poste. En revanche, peu débouchent sur des procédures de justice, moins de 200 pour des cas de désertion et 7 700 pour abandon de poste. De fait, ces cas sont principalement liés à des problèmes de communication, de coordination, de discipline, et non par un refus généralisé de défendre le pays. Compte tenu du rapport de force inégal dans cette guerre que mène l'Ukraine depuis près de 45 mois, c'est dans La Croix, Johan, l'article, il me semble que la situation est loin d'être catastrophique. Ton père a un expert en questions de défense qui s'appelle Mirola Blislikov. Il met en avant les nombreuses améliorations concernant la numérisation, la mise à jour des registres, le passage d'un système de brigade à celui d'un corps d'armée. La Russie nous livre une guerre d'attrition, explique cet expert, petit à petit. Qu'est-ce que ça veut dire? Nos ressources, notre personnel qualifié s'épuise et on peut recruter les meilleures offres de recrutement. On peut proposer les meilleures offres de recrutement possibles. Le risque de mourir ne peut pas disparaître. Remarque qui s'applique en particulier à la classe d'âge ukrainienne 18-24 ans, non mobilisable jusqu'à l'âge de 25 ans. Elle s'est vue offrir en 2024 des contrats avantageux, limités dans le temps, rémunérés à hauteur de 2 500 € par mois. Pourtant, seules un peu plus de 500 personnes ont été recrutées à travers ce programme donc qui vise les 18-24 ans. Puisqu'a priori, en Ukraine, en dessous de 25 ans, tu ne peux pas être mobilisé. Autre signe d'une volonté politique de ménager les jeunes, le gouvernement les a autorisés en août à voyager à l'étranger. Le résultat, à la mi-octobre, environ 100 000 Ukrainiens de 18-24 ans avaient quitté le pays.
une absence prolongée qui va peser sur le marché du travail, qui est confronté à une pénurie de main-d'œuvre par ailleurs, et dans quelques années, qui pourrait aussi affecter les flux de recrutement militaire. Autant de craintes qui justifient des remises en question de la stratégie du haut commandement et de la politique du gouvernement. Nous sommes confrontés à une vague de populisme très inquiétante, déplore un député d'opposition. Les partis se préparent à des élections et multiplient les promesses pour conforter leur électorat. C'est aussi vrai de la part de l'équipe de Volodymyr Zelensky, l'actuel président. Il en veut pour preuve cette décision d'autoriser les 18-24 ans à voyager, ou encore les prévisions budgétaires pour 2026, qui actent d'une baisse du budget de la défense au profit d'autres secteurs. Attrition, usure, exactement, chantise. Mais tout indique qu'il n'y aura pas d'élection sous peu. La guerre va continuer, il faut se projeter sur le long terme et adopter les mesures qui s'imposent pour continuer la lutte. Voilà pour la situation aujourd'hui de l'Ukraine. Rien de nouveau, finalement, hein. Cette guerre d'attrition, cette guerre d'usure, comme nous le rappelait Chantis, que mène la Russie contre l'Ukraine, c'est le pari de Poutine qu'à terme, l'Ukraine va craquer, quoi. Je vous lis. La durée du conflit? Que disait l'article? 45 mois? 45 mois, c'était ça? Alors de plus en plus, je vois pop des articles dans la presse. Je vous en ai pas mis de côté encore, mais ça va venir dans les prochains jours. Des articles de spécialistes de la défense, spécialistes du renseignement. Ouais, c'est presque 4 ans, février 2022. Sur la possibilité d'une attaque russe contre l'Europe, ou en tout cas contre d'autres pays européens, dans les mois et dans les années à venir. Donc il y a de plus en plus de spécialistes des questions de défense qui disent que c'est absolument pas un scénario fou et qu'il faut peut-être se préparer à d'autres conflits lancés par la Russie en Europe. Voilà. Le prochain article un peu carré sur le sujet, je vous le mettrai de côté. Merci Olinox, tu régales. Donc ça, c'est prévu. Je n'ai pas encore trouvé le bon article, bien carré, mais je vais vous le mettre de côté. Bravo Dafux. Alors, il me reste combien? Un sujet ou deux sujets? Deux. On va parler de l'UMA. De l'humanité qui nous dit que l'IA est une catastrophe pour l'emploi. Bon, ça c'est important parce que je vois régulièrement des articles sur le sujet et j'attendais le bon article, je crois que je l'ai trouvé là-dessus. Et on va parler du Mali aussi, alors je ne connais vraiment pas bien la situation au Mali, mais je voulais vous en parler ce matin pour qu'on ait un peu les infos là-dessus, quoi. Sommaire, let's go, on va sur le Mali. Le Mali au bord du gouffre, c'est ce que nous dit le Parisien en tout cas ce matin. Voilà. Mali au bord du gouffre, et on est sur un TC, un timecode de 1h52 pour ceux qui nous écoutent en replay. 1h52. Et je salue Vincent d'ailleurs, qui est Vincent qui s'occupe chaque jour de mettre cette revue de presse en podcast audio sur toutes les plateformes audio à partir de 15-16h. Voilà, 1h52, ok. Hop, ok. Ils sont à deux doigts d'installer un califat au Mali, me dit Fricassé de Fèves au Bellota. Oui, c'est un petit peu l'histoire, c'est ce que j'ai compris ce matin. Ouais. Le Mali au bord du gouffre. Voilà. Et TikTok, je vous mets la petite flèche. Il y a même ce qui dit, la Russie a bien réussi à saper l'influence de la France en Afrique. Le Mali en est un des exemples, c'est un des aspects de ce sujet, effectivement, tu as raison. Mais bon, le vrai sujet, c'est les Maliens, c'est-à-dire quelles conséquences pour le peuple malien? Le sujet le plus important, c'est celui-là, quoi. C'est ça qui est important. Et là, vous allez voir, les jours qui arrivent semblent sombres pour les Maliens. Les Maliens et les Maliennes. Le Mali au bord du gouffre, donc. C'est le Parisien ce matin, des djihadistes, principalement venus d'Al-Qaïda, contrôlent actuellement les trois quarts du territoire et coupent les routes d'approvisionnement vers Bamako. Les Français ont été encouragés vendredi à quitter le pays. Robin Corda signe cet article. Mariam Cissé, c'est une jeune malienne, partageait toute sa vie en vidéo. Au nord du Mali, la jeune fille filmait la ville de Tonka dans la région de Tombouctou, ses rues, son fleuve, son marché, c'était une influenceuse. Près de 90 000 abonnés la suivaient sur TikTok. Vendredi, des hommes l'ont fusillée sur la place publique. Ils l'accusaient de collecter des images pour l'armée du régime. Une terreur sourde s'abat sur le Mali. Des forces djihadistes tiennent désormais près des trois quarts du territoire. Des terroristes braquent sur les routes des camions-citernes. Faute de carburant, les centrales thermiques s'arrêtent. Ce territoire enclavé, tout un pays risque de s'effondrer. Le Mali va tomber. C'est une question de jours, de semaines, voire de mois, mais il va tomber, explique un chercheur qui s'appelle Thierry Vercoulon, chercheur associé au Centre Afrique de l'Institut français des relations internationales. En 2013, parce que quelqu'un me dit dans le chat, et on laisse faire. Aline me dit « et on laisse faire ». En 2013, la France avait tenté d'écarter ce scénario catastrophe en envoyant ses troupes sur place. Bamako, cette fois, affronte seul son destin. Les 3 millions d'habitants de la capitale, donc Bamako, vivent dans le piège d'un inquiétant compte à rebours. Vendredi, les autorités françaises ont recommandé à leurs ressortissants de quitter le pays dès que possible. Il en resterait près de 5000, en tout cas parmi ceux inscrits sur la liste consulaire, donc sans doute un peu plus de Français. Waouh! Les États-Unis et le Royaume-Uni avaient annoncé l'évacuation de leur personnel non essentiel et de leurs familles déjà la semaine précédente. Un nom bien connu des Français ressurgit du passé, Al-Qaïda, l'organisation longtemps incarnée par Oussama Ben Laden, s'est enracinée dans les sables du Sahel. Sa filiale régionale, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, prend de l'ampleur. Il semble chaque jour plus proche de pouvoir instaurer un califat. Tout laisse à penser que le GSIM souhaite la chute de la junte, a prévenu le patron de la DGSE française, Nicolas Lerner, lundi sur France Inter. Pour l'heure, les analystes estiment que l'organisation n'est pas prête militairement pour s'emparer de la capitale. C'est peut-être pas pour tout de suite. Le groupe terroriste a atteint un niveau de capacité opérationnelle lui permettant de conduire des opérations complexes, drones, engins explosifs, grand nombre de combattants. C'est un rapport de l'ONU qu'il disait en juillet. Des djihadistes en treillis, turban autour du visage, multiplie les attaques contre l'armée, les convois civils. Présent du nord au centre du pays, le groupe a étendu son emprise vers l'ouest et resserre maintenant son étau autour de Bamako. Étouffer l'économie nuit bien plus que les balles. L'État peine depuis longtemps à payer ses fonctionnaires. Ses recettes minières et douanières s'effondrent et personne ne semble en mesure de le sauver du désastre. Les mêmes affres accaparent déjà ses principaux alliés frontaliers, le Burkina Faso et le Niger. Bamako paye en partie ses choix stratégiques, écrit le Parisien. Deux coups d'État successifs ont secoué le pays, 2020-2021. Assimi Goïta, militaire devenu président de la transition en 2020, promet d'emblée de rompre avec la tutelle française, donc là c'est en 2020. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères de l'époque, dénonce des provocations. La méfiance s'installe entre les deux pays. En janvier 2013, François Hollande avait envoyé près de 4000 soldats français sur place, les opérations Serval, vous vous souvenez peut-être. Il se fout de ma gueule, Louis Delez, là ? Attendez, Sugar a supprimé son message, mais il y en a qui se foutent de ma gueule. Pourquoi tu mets jamais de sommaire, je viens d'arriver, et je sais jamais de quoi tu parles ? Il se fout de ma gueule. Ah, il le fait exprès à chaque fois ? Il fait toujours le même message ? Ben laissez-moi regarder l'historique, je vais me régaler, moi. Il est complètement con, lui. C'est pas le fou du bus, c'est le fou de la flottille de bus, quoi. C'est le patron de l'entreprise. Nom de Dieu. Putain, vous avez de la patience, les modos, hein. C'est épuisant, hein. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Espèce de troller. Ah, c'est une vanne. Putain, on est en train de parler des djihadistes au Mali. Et le gars vient dans un chat pour faire une vanne sur le sommaire. Oh putain, la vache, désolé, mais désolé de pas avoir la patience parfois. Ah, mais c'est une vanne, tu devrais rire. Sérieux, putain, les gars, c'est lourd, hein. Putain, moi, je vis ça tous les jours, des dizaines de fois par stream, hein, depuis 5 ans. Hein. Mettez-vous à ma place un moment, quoi. Pardon, hein. C'est bien d'être chill, de rigoler et tout, mais... C'est fatigant, en vrai, hein. Comme le dit Exutoire, je préfère l'humour drôle. Bon, les modos, je vous laisse gérer ça, quoi. On peut revenir aux choses importantes ou pas? C'est dingue, ça. Incroyable. Donc, on était où? Alors oui, on était aux opérations françaises. Donc, on était où? On était là. Donc, opération Serval et Barkhane. Donc, janvier 2013. Putain, le temps qu'on perd avec les lourds. François Hollande avait envoyé près de 4000 soldats français. Sur place, les opérations Serval puis Barkhane devaient arrêter l'avancée des colonnes djihadistes, sécuriser, donc 2013, donc c'était il y a 12 ans, sécuriser la capitale et permettre au pays de recouvrer son intégrité territoriale. 9 ans plus tard, Emmanuel Macron rappelle les troupes en France, le dernier convoi quitte Gao le 15 août 2022. La Russie, quelqu'un nous parlait de la Russie tout à l'heure, s'enfonce alors dans la brèche et livre des hélicoptères. Des armes légères, salut Malo, joli prénom, des instructeurs pour la formation de l'armée malienne, des hommes du fameux groupe paramilitaire Wagner à l'époque, un temps actif en Ukraine, débarquent dans le pays, hein, et le président malien déclare à l'époque, deux points ouvrez les guillemets, nous préférons des mercenaires assumés, donc Wagner, les Russes, à des ennemis déguisés en amis, donc ça c'est les Français, hein. Dans la bouche du président malien. Le néocolonialisme dure depuis bien trop longtemps, même à l'instant où je vous parle, la France en a énormément profité, dit-il. Les groupes djihadistes reculent d'abord. Fin 2022, début 2023, la junte et ses nouveaux renforts libèrent plusieurs villes du nord, mais l'illusion ne tient qu'un temps, une contre-offensive depuis prend Bamako à la gorge. À l'été 2023, Yevgeny Prigojine, c'était le patron de cette milice Wagner, meurt dans un mystérieux crash d'avion, je ne sais pas si vous vous souvenez. Le chef du groupe Wagner avait jugé judicieux de mener la fronde contre le Kremlin, c'était pas l'idée du siècle en vrai. Ces mercenaires intègrent alors une nouvelle structure, Wagner n'existe plus, Africa Corps, placée sous la tutelle directe du ministère de la Défense russe. Leur programme ces jours-ci tient vraisemblablement plus à faire leur paquetage qu'à investir le champ de bataille. Environ 1500 hommes, mercenaires donc, serait encore présent sur le sol malien, principalement à Bamako et dans le centre du pays, repliqué autour de sites miniers. Ils échouent pour l'heure à infléchir la catastrophe qui guette. Oui, Africa Corps, c'est bizarre, ouais. Ouais, je suis d'accord, ouais. Africa Corps, ça ne nous renvoie pas aux Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, ça? Ils ont littéralement choisi ce nom-là? C'est vrai, ça? C'est pas possible. Ils ont choisi ce nom? Ouais, ok, d'accord. Bon, peu importe. Waouh. Pour les états-majors voisins aussi, le Mali n'est plus qu'une cause perdue. L'armée régulière malienne se retrouve prise en étau. En plus d'Al-Qaïda, les soldats du régime doivent repousser les assauts de l'État islamique au Grand Sahara, affilié à Daesh. Actif dans la région de Ménaka et de Gao, le groupe mène face au GSIM une guerre de territoire autant qu'une course à la terreur. Ce morcellement à terme pourrait plonger le pays dans l'inconnu. Une partie passerait sous le contrôle d'Al-Qaïda et de son nouveau califat. Le reste suivrait la pente de la Libye dans les années 2010 ou de la Somalie des années 90, une zone grise de la planète. refuge de nombreux droits pour djihadistes, trafiquants et rebelles Touareg. L'heure alors sera peut-être à la vengeance. Ces dernières années, l'armée malienne et des milices locales ont procédé à plusieurs massacres contre la communauté Peul. Pourquoi ? Parce que suspectés de se ranger du côté des djihadistes, en mars 2022, Moura, dans le centre du pays, a été par exemple le théâtre de centaines d'exécutions publiques, de viols, de pillages. Il y aura beaucoup de comptes à régler, redoute le chercheur Thierry Vircoulon. Le chaos souvent se nourrit du chaos. Des centaines de milliers de Maliens tentent de fuir. Une crise migratoire menace. Sur les routes de l'exil, il ne restera du Mali peut-être un jour qu'un nom perdu dans la poussière d'un Sahel en crise. Waouh ! Waouh ! C'est fou. Donc, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, le sujet le plus important ici, c'est qu'est-ce que les prochains mois réservent au peuple malien, quoi. Il y a Zoram qui me dit, de base, Wagner, ça venait du chef du groupe sur le terrain qui était surnommé Wagner parce que c'était le compositeur préféré d'Hitler. Donc bon, on était déjà pas très loin de l'Afrika Korps. Merci pour ceux dans le chat qui répondent aux questions des autres sur certaines questions. Sur l'actu, vous êtes, je vous lis et je vous vois, bravo. Hein. C'est cool. Il y a un petit Loire qui nous dit que le plus inquiétant, c'est l'effet domino que la chute du Mali peut entraîner dans la région et par effet ricocher les effets en Europe, les attentats, etc. Je vous lis. La France va y retourner, me demande Xilef. C'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr. Hein. Bon, en tout cas, voilà, on a quelques éléments de réflexion sur le Mali. Et on va continuer à suivre ce sujet dans les prochaines semaines, les prochains mois. On termine. Je vous lâche à 11h30 lâchement parce que j'emmène mon grand chez le médecin à 11h45. Et je vous retrouve ensuite à 20h pour Time Out, mon grand jeu de culture générale sur Twitch. Et donc, qu'est-ce qui m'écrit là? Attends, je regarde si j'ai pas raté des messages urgents. Non, c'est bon. Parce que parfois, dans 3 heures de live, il s'en passe des choses. Puis je vois des urgences que je rate. Ça a l'air ok. Note d'honoraire. Ça, c'est la facture. Ok. Ok. Facture. Ok. Bon, tout va bien. Rien de grave. Alors, l'IA, let's go. Tu joues la bonne paye ou quoi? Bah non, j'essaie de payer mes factures en temps et en heure, quoi. Alors, ça fait des semaines que je vois passer des articles sur le sujet. Est-ce que l'IA serait une catastrophe pour l'emploi et notamment l'emploi des jeunes. Voilà. Et j'ai trouvé un dossier qui semble assez complet là-dessus ce matin. Est-ce que c'est une peur irraisonnée, non fondée, ou au contraire, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Voilà. 2h08, hop. Hop. L'IA contre l'emploi. C'est comme ça que j'ai résumé le truc. Voilà. Tac. Le titre. Ok, c'est fait. Et TikTok, je vous mets la flèche. Et donc, ce sera notre dernier thème ce matin. Voilà. Hop, l'IA contre l'emploi. Boum. Donc, c'est la une de l'humanité. Dossier assez complet, que je vous invite à lire parce qu'on ne lira pas tout. L'IA, donc l'intelligence artificielle, un cheval de Troie contre l'emploi. L'intelligence artificielle offre un prétexte à la suppression de centaines de milliers de postes. Les jeunes diplômés sont les premiers touchés. Donc déjà, l'humain nous dit que ce n'est pas tellement l'IA qui supprime des emplois. Ce sont bien certaines entreprises, et spécifiquement des grandes entreprises, qui à un moment se disent que l'IA leur permet de supprimer des emplois. Donc déjà, dans le titre, l'humanité nous emmène plutôt sur cette piste-là. L'IA, c'est un outil, c'est pas l'IA qui supprime l'emploi. C'est l'entreprise qui décide qu'à un moment, elle a besoin de moins de salariés. On est bien d'accord. Ce ne sont... Ah ben, j'avais pas vu le titre de l'UMA. Ce ne sont pas les IA qui licencient, mais les patrons de la tech. Vous voyez, c'est pas la même chose. J'avais pas vu le titre. Amazon. Je parlais plutôt de grosses entreprises. Microsoft, Accenture, de retentissants plans de licenciement, ce n'est pas des vues de l'esprit, hein. C'est des licenciements qui existent, se sont succédés ces dernières semaines au prétexte de l'automatisation. Avec l'essor de l'IA, les jeunes diplômés en première ligne peinent à s'insérer sur le marché du travail. Face à l'IA, nous sommes trop souvent pris comme des lapins dans les phares des voitures, aussi fascinés que fatalistes en regardant la catastrophe arriver, en l'occurrence le patron avec un courrier de licenciement. Les exemples commencent à être très nombreux, nous dit l'UMA. Au prétexte de l'IA, Amazon supprime 30 000 postes de cadres dans le monde. Tiens, c'est intéressant. Zoski a écrit un message que je trouve très intéressant. Je suis dans cette industrie et anecdotiquement, je confirme qu'il n'y a pas assez de systèmes mûrs d'IA déployés pour justifier les plans de licenciement en cours. C'est à mon avis plus un symptôme de la santé réelle du marché américain que de l'évolution de la techno. C'est intéressant. J'ai l'impression que l'IMA dit la même chose que toi. Donc Amazon supprime 30 000 postes de cadres dans le monde, Accenture 11 000, Tata Consultancy Service 12 000, Microsoft 9 000, IBM 9 000 aux États-Unis, Salesforce 4 000. La liste est longue et rien que dans l'entreprise des nouvelles technologies, les prévisionnistes s'attendent à plus de 200 000 licenciements cette année. Chez Walmart, premier employeur privé des États-Unis, le PDG prépare le terrain et affirme que tous les métiers seront touchés. Quant au patron de Ford, il estime que l'IA va remplacer littéralement la moitié des cols blancs. Les cols blancs sont les cadres. Aux États-Unis, on pourrait énumérer longtemps les prédictions apocalyptiques énoncées au doigt mouillé. Il y a Cyril qui m'explique que Walmart, c'est un peu le Leclerc des USA. Le monde a un peu perdu la tête avec l'IA, pointe Pierre-Yves Gosset, qui est coordinateur des services numériques de Framasoft, qui dans sa conférence intitulée « Ce n'est pas l'IA que vous détestez, mais le capitalisme » s'emploie à démystifier cette technologie pour examiner ses conséquences sociales, idéologiques, politiques. Je vous lis. Hein. Le premier problème est qu'on a trop tendance à anthropomorphiser l'intelligence artificielle à tel point qu'on lui prête des intentions, remarque-t-il. Or, l'IA n'a pas de personnalité morale ou physique. Hein. Ce sont des directions qui décident si on automatise ou pas. Et si on se parle du contrôle humain, hein, c'est pas l'IA, quoi. La fascination vient aussi du fait que jamais une technologie ne s'est aussi rapidement diffusée. ChatGPT a que 3 ans. Aujourd'hui, on estime que 66% de la population mondiale a déjà eu recours, consciemment ou non d'ailleurs, à une IA générative. Ces licenciements dont on parle, retentissants chez les géants de la tech et du conseil, sont aussi des messages envoyés à de potentiels clients. Tous sont vendeurs de solutions d'IA et espèrent montrer par là que les gains de productivité sont réels. Alors que le MIT, aux États-Unis, a produit une étude qui montre que 95% des projets d'IA implantés en entreprise n'ont pas atteint leurs promesses. J'ai des témoignages que je trouve passionnants dans le chat, je ne lis pas tout, mais regardez, un gynécier. J'ai été licencié suite à un licenciement collectif pour cause d'automatisation liée à l'IA. Hein, on est vraiment dans le cœur de notre sujet. Mais la réalité, c'était une mauvaise gestion financière. Invoquer l'IA, ça passe mieux dans la presse et pour la com. Hein. Anecdote, l'équipe IA a été une des premières licenciées dans l'entreprise. J'adore. Enfin, j'adore. Pas pour toi, mais je trouve ça très... Ça illustre bien notre sujet. Donc, je rappelle l'étude du MIT. 95% des projets IA implantés en entreprise n'ont pas atteint leurs promesses. Et si les GAFAM restent largement bénéficiaires, leurs dépenses en forte hausse d'investissement liées à l'IA plombent leurs résultats. L'annonce de la suppression de milliers de postes chez les géants du numérique, juste avant la publication de leur bilan comptable, a ainsi servi à maintenir le cours de l'action. En un sens, ce sont des licenciements boursiers. Et les travailleurs servent de variable d'ajustement à des marchés très sensibles à l'IA, tranche Pierre-Yves Gosset. Aujourd'hui, aucune entreprise qui fait de l'IA n'est rentable et la bourse a commencé à sanctionner les résultats des GAFAM. De son côté, OpenAI, créateur de ChatGPT, perd au-delà de deux fois plus d'argent qu'elle n'en gagne et la tendance empire. Les conséquences sur le marché de l'emploi deviennent néanmoins tangibles. 2025 sera l'année du plus grand nombre de licenciements aux États-Unis, Covid excepté depuis la crise financière de 2009. 2025 sera l'année du plus grand nombre de licenciements aux États-Unis depuis 2009, hors Covid. Là encore, il est plus simple d'agiter la responsabilité de l'IA que d'incriminer la politique désastreuse de Trump. Le DOJ, le département chargé de trancher dans les dépenses, les commandes et les effectifs de la fonction publique, à l'origine dirigée par Musk, est le premier responsable de la destruction d'emplois aux États-Unis. Mais un autre indicateur reste préoccupant. C'est ça dont l'humanité veut parler aussi ce matin. Je vous lis. Je voudrais lire tous les messages parce que je trouve ça vraiment intéressant. Écoutez ça, le Financial Times, a forgé le concept de job apocalypse pour décrire la crise de l'emploi qui pourrait frapper la nouvelle génération d'entrants au travail. Le taux de chômage des jeunes diplômés est monté de 4,8 à 5,8% en un an, bien au-dessus de la moyenne nationale, 4% aux États-Unis, c'est du jamais vu. Des branches d'activité comme le développement informatique, la finance, le juridique, les services clients, les ressources humaines sont les plus touchés. Sur des plateformes d'emploi comme Indeed, les offres à destination des jeunes diplômés ont chuté de près d'un tiers. Patox, mais c'est quoi ton compte Twitter ? Envoie-moi un mail. Sur tous mes réseaux sociaux, il y a mon mail pro, Patox. Envoie-moi un mail pour m'expliquer. Et pas ici. Mais sur ce mail, donne-moi ton pseudo Twitter, j'irai voir, ok ? Sur des plateformes d'emploi comme Indeed, donc les offres à destination des jeunes diplômés ont chuté de près d'un tiers. Tandis qu'à l'inverse, la demande de travailleurs expérimentés reste soutenue. C'est les jeunes qui sont les plus touchés, quoi. Merci Patox. En France, l'Association pour l'emploi des cadres, l'APEC, est très attentive au sujet. On a remarqué une évolution de nos offres d'emploi ouvertes aux débutants en recul de manière assez marquée dans les secteurs exposés à l'IA. De moins 16 à moins 17% par exemple dans l'informatique. Alors que c'était plutôt un domaine qui recrutait massivement. Mais la première raison de cette tendance est-elle l'IA ou un retournement du marché du travail ? Est-ce conjoncturel ou structurel ? Il est trop tôt pour être affirmatif. Voilà. Aux États-Unis en revanche, il y a des études qui commencent à être faites sur le sujet, notamment une de l'université de Stanford aux États-Unis, qui a été publiée fin août. Les chercheurs ont analysé des millions de fiches de paie, des dizaines de milliers d'entreprises aux États-Unis. Selon leurs conclusions, le nombre de jeunes diplômés qui occupent des postes exposés à l'IA est en baisse de 13% depuis 2022 et l'arrivée de ChatGPT. Cette étude confirme ce qui ressort de nos baromètres. Les cadres qui utilisent l'IA comparent son utilité à celle d'un assistant ou d'un stagiaire qui dégrossit le travail et derrière lequel il faut repasser pour corriger, affiner, apporter de l'expertise, dit le président de l'APEC, Gilles Gâteau. Voilà. Cela risque de poser un problème redoutable à long terme pour les entreprises si on ne recrute plus de juniors pour faire ces tâches. C'est l'occasion de les former, justement. Qui, demain, deviendra senior ? comment les travailleurs vont-ils acquérir de l'expérience? Si en gros, pour simplifier, ça c'est un truc que j'ai beaucoup lu ces derniers jours, si en gros, on confie à l'IA le travail un peu de base qu'on faisait faire aux plus jeunes qui arrivaient dans une entreprise, qui était l'occasion de les former, quoi. Des libertariens se saisissent déjà de ces tendances pour suggérer des solutions qui font froid dans le dos. Certains conseillent aux jeunes d'arrêter de payer des cours à l'université, de donner cet argent pendant un an ou deux aux entreprises qui leur donneraient l'expérience dont ils ont besoin face aux IA. T'as des gars qui disent, les jeunes, arrêtez de suivre des études coûteuses, prenez cet argent, filez-le à une entreprise qui va accepter de vous embaucher pendant 2 ans pour vous former, quoi. Tu payes pour travailler. Ou nom de Dieu. Tous les mois, c'est pas un salaire que tu reçois, tu fais un virement à ton patron. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Il y a Zoram qui dit la forme finale du capitalisme. Nom de Dieu. Waouh. Il préconise encore d'obliger contractuellement les jeunes à rester plusieurs années dans l'entreprise, passer les premiers temps où ils sont jugés moins productifs que l'IA. Oh putain, quel enfer! Quel enfer! Une étude publiée mi-octobre par l'Institut britannique BSI et conduite auprès du patronat de 7 pays, Royaume-Uni, États-Unis, France, Allemagne, Australie, Chine, Japon, confirme qu'un tiers des patrons regardent désormais s'il y a une solution IA avant le recrutement. Et que 40% d'entre eux ont déjà réduit ou ont l'intention de réduire le nombre de postes de débutants. En moyenne, les patrons estiment que lorsqu'une IA est capable d'accomplir 70% des tâches d'un employé, eh bien ce poste est supprimable. Les vendeurs d'IA veulent imposer une vision du travail déterminée par la technologie, c'est elle qui décide, selon ses capacités, quelles tâches seront automatisées, le reste, ce sera pour les humains. Elle accélère ainsi une transformation fondamentale dans la conception du travail, liée aux compétences. On n'exerce plus un métier, mais on accomplit une succession de tâches. Voilà. C'est ainsi que l'IA fonctionne, elle saucissonne des problèmes en étapes, les résout un à un de la manière la plus productive possible, la plupart des métiers sont beaucoup plus que ça. On risque de perdre toute humanité. Ce qui relève du non-dit, les savoir-faire qui divergent des compétences apprises, déplore Pierre-Yves Grosset. L'auteur de science-fiction, Cory Doctorow, résume les choses ainsi. La technologie ne pourra jamais intégralement automatiser votre métier, mais un vendeur d'IA pourra convaincre à 100% votre patron du contraire. Alors, j'avais lu en diagonale le papier avant de vous le lire ce matin. Je ne pensais pas que c'était si inquiétant. Sinon, je ne vous l'aurais pas lu. Hein. Ça fait flipper. Hein. Oh, nom de Dieu! Donc, l'IA, c'est pas le problème. C'est... Donc, ce que c'est de nous dire l'humanité, le problème, c'est pas l'IA. C'est la manière dont certaines entreprises, certains chefs d'entreprise vont s'emparer de l'IA pour supprimer de l'emploi. Waouh! Samuel remplacé par une IA sur Twitch en 2026. Alors, l'avantage du créateur de contenu, c'est qu'il est à son compte. Qu'une IA un jour puisse faire mieux que moi ce que je fais, peut-être. Mais en tout cas, ce ne sera pas Samuel Etienne, patron de l'entreprise Samuel Etienne, qui va licencier Samuel Etienne. Ou alors le mec est devenu fou quoi. C'est intéressant, hein. C'est fou, hein. Peut-être que Samuel Etienne 2027 sera le dernier président humain de la France. Merci Louis Deleuze, merci beaucoup. Non mais tu comprends, tu vois, vu le sujet et tout, si je dois me taper tous les historiques des gens pour comprendre si c'est humour ou pas humour, mais merci pour ton message. Merci Mi Budget. C'est fascinant. Je pense que c'est inévitable à terme. Dans les années à venir, les choses vont changer forcément drastiquement, dit Narco. On va devoir s'adapter. Kitani dit, les jeunes, si vous aimez les métiers manuels, foncez, moins de risques d'être remplacés. Salut Fabrica. Ouais, ce matin, j'avais rendez-vous avec mon... J'emmène un de mes enfants chez le médecin, donc du coup, je termine un peu plus tôt.
Ok.
Bon, c'était hyper intéressant. Merci les amis. Allez, on va pas se quitter comme ça. Je vous rappelle qu'on a un petit stream important ce soir. Je compte sur vous. Venez, c'est mon stream de cette semaine quand même. Il est beau celui-là. Il est beau, il est chaud, il est frais. Hop, ça j'enlève. Ça j'enlève. Et je vous remets ça. 20h. Alors, amis de TikTok, c'est que sur Twitch. Hein. Voilà. La revue de presse est tous les matins. En gros, 9h midi sur Twitch et TikTok. Depuis 5 ans sur Twitch, depuis quelques semaines sur TikTok. Et puis depuis quelques semaines aussi en podcast audio, point d'exclamation podcast, dans le chat Twitch. Voilà, à partir de 15-16h, vous avez le replay en podcast audio. Mais ce soir, mesdames et messieurs, on met les petits plats dans les grands. Ce soir à 20h, Time Out, la 5e édition de mon grand jeu de culture générale et de culture pop. Des invités, ils sont beaux, ils sont frais, ils sont magnifiques, ils sont cultivés, ils sont intelligents, ils sont sympathiques. Voilà. Deux équipes, une team fille, une team garçon, on va rigoler. Et puis un animateur qui fait ce qu'il peut. Voilà. Et ça va être très sympa. Donc 20h sur Twitch, je compte sur vous, ça va être super sympa. Merci Tom Ward pour le Prime à l'instant. Amis TikTok, je vous dis au revoir et je vous dis à demain matin, puisqu'il y aura une revue de presse demain matin, bien sûr. Et je vous embrasse bien fort et j'ai adoré échanger avec vous ce matin. Et merci d'avoir été aussi nombreux. Prenez soin de vous, amis TikTok, à demain. Et bien sûr, Twitch, on va faire un raid, bien sûr. Amis de Twitch, donc pour TikTok, c'est over. Nous, on va aller faire un raid tout de suite. Voilà. Et je vous retrouve ce soir pour Time Out. Ça va être super sympa. Qui est en live? Tiens, qu'est-ce qu'il fait mon... Tiens, attends, qu'est-ce qu'il fait? Je vois des gens que j'aime bien qui sont en stream. Oh, c'est bon ça. Je vois un stream IRL à Shanghai avec notamment Jiraya, avec Sakor, avec Zari. Je ne sais pas qui raid. Bon, je vais choisir. Je les aime tous, de toute façon. On va aller voir Jiraya. Voilà. Mais c'est beau comme tout, hein. C'est beau comme tout. Hein. Jiraya, Dixit, Jiraya le cochon sur Twitch. Ils sont en live IRL à Shanghai. C'est magnifique. Voilà. J'aurais pu choisir un de ces streamers. Ils sont tous formidables. Il faut bien en choisir un. Let's go. Excusez-moi auprès des autres. Prenez soin de vous. Merci pour ce matin. Bonne journée. J'allais dire bonne semaine. Non, on est mercredi, c'est cool. Et à ce soir, 20h, pour Time Out, je lance le raid. Merci pour tout. Ciao les beaux gosses.
C'est entre 10 et 11.
Je mets un fond avec tomate.
Attends, et tu sais, sur quoi tu as mis ça sur la courbe?